Bon, merci beaucoup. Je suis très, très content d'être ici à Caen, une université qui en est fait très reconnue hein, dans le champ de, peut-être pas mouvements sociaux au sens étroit, mais au sens large, notamment autour de l'écologie, des pratiques de résistance, notamment sur la résistance au quotidien avec Michel Debré, qui est un livre vraiment influent, je pense, pour toute ma génération de sociologues. Et puis, je pense aussi au livre de Salvatore. Donc, merci beaucoup de m'inviter ici. En plus, Caen, dans tous ces domaines-là, c'est vraiment une université importante. Donc aujourd'hui, en effet, j'ai un peu hésité, je ne sais pas très bien sur quoi parler. Finalement, j'ai repris quelques éléments de mes travaux, de différents travaux sur l'alteractivisme. Je vais présenter. J'ai fait un exposé, je crois, assez accessible. Je ne vais pas rentrer trop dans les polémiques sociologiques ou entre différents courants, mais peut-être que dans le débat, on pourra en discuter. Voilà. Et donc, peut-être que le point de départ, c'est de penser les mouvements d'une autre manière. Je ne sais pas si les textes... Il y a deux textes qui ont circulé, je crois, non? Donc, je vais m'y référer un petit peu, pas trop longuement. Mais en disant que trop souvent, quand on parle de mouvements sociaux, on a toujours la même image en tête. Des manifestations, au mieux, une place occupée. Et tout ça, c'est sans doute important. Mais pour moi, ce n'est pas l'essentiel. Je me suis rendu compte que j'avais passé plein de temps à essayer de comprendre un peu qui était dans les manifestations. Et finalement, ça n'a pas apporté grand-chose pour moi pour comprendre les mouvements. Au contraire, tout ce qui se passe dans les manifestations en particulier, ou même sur une place qui me semble déjà beaucoup plus intéressante, c'est souvent la pointe de l'iceberg. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est parfois la pointe aussi, mais surtout ce qu'il y a en dessous. Et dans ces mesures-là, il n'y a pas les mouvements sociaux, ce n'est pas simplement des choses qui sont dans tous les médias tout le temps, c'est des choses qui sont aussi dans le quotidien. Et chaque fois, je serai un peu tourénien sur ma définition de mouvements sociaux, c'est l'idée que ça touche l'historicité, pour prendre le gros mot. Mais donc, quand il y a une dimension d'action qui se propose de transformer, de questionner une valeur fondamentale de la société, on peut parler d'une dimension de mouvement social. Et donc, dans cette mesure-là, on voit qu'aujourd'hui, il y a bien sûr des dimensions de mouvements sociaux dans la bataille de l'information, dans les mouvements des places, les expérimentations, dans le changement dans la vie quotidienne. Et donc, dans ce sens-là, oui, je crois qu'ils sont un peu partout. Simplement, autant je propose d'étendre le concept de mouvement social. Donc, je discute beaucoup, notamment en Amérique latine, autour des concepts de résistance. Il y a bien d'autres concepts qu'on peut intégrer. Et en même temps, je pense aussi qu'il faut, à l'intérieur d'un même mouvement, séparer différentes choses. Et donc, c'est un peu l'idée pour commencer, c'est un peu la base de mon exposé, c'est de dire qu'il y a une dimension de mouvement social dans de très nombreuses actions, mais en même temps, quand on voit une manifestation, une place occupée ou autre chose, là, il faut éviter de considérer que toute la manifestation, toute l'occupation de la place, c'est pas homogène du tout. Mon unité d'analyse, c'est à la fois le mouvement social, mais aussi les cultures activistes. Là, je m'inspire surtout, par exemple, de la définition de Arturo Escobar, qui est un important anthropologue latino-américain, colombien. Et tout ça pour dire que dans une manifestation, dans un mouvement, sur une place occupée, il y a en fait différentes cultures militantes. On peut voir, prendre le mouvement à la mode en France, hein, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a des cultures très différentes qui se confrontent. Et donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre de manière une logique un peu weberienne, aussi pure que possible, la logique d'action qui est connectée à une vision du monde, et je pense surtout en France, en fait, l'idée de vision du monde, les idées ne sont plus tout centrales dans les sociologies officielles de l'action collective. Ils ne parlent d'ailleurs plus de mouvements sociaux. Ils parlent beaucoup plus de l'intérêt, des carrières militantes, d'autres choses. Là, je pense qu'il faut reprendre les idées, les cosmovisions, vision du monde, mais et en même temps les pratiques qui sont cohérentes avec ces visions du monde. J'y reviendrai. Et donc, si on prend un mouvement comme Nuit Debout, j'ai passé 3 mois sur la place de la République il y a 2 ans déjà, on voit qu'en même temps, il y a une certaine unité, qu'on peut parler de Nuit Debout, mais dès qu'on est à l'intérieur, on voit plein de tensions, et il me semble intéressant là d'isoler quelques cultures militantes différentes. Par exemple, les jeunes militants de la gauche entre guillemets, avec quelques termes clés, convergence des luttes, équilibre des forces. Là, l'idée, c'est que si on veut changer le monde, ce qu'il faut avant tout, c'est pouvoir construire un équilibre des forces, donc avec les syndicats, avec d'autres, pour pouvoir peser sur le gouvernement. Ces gens-là, par exemple, que j'étudie dans un autre article sur l'Europe, ils expliquent que même le meilleur gouvernement de gauche ne va pas changer les choses tout seul, il faut une pression de la rue. C'est ça qui va faire changer les choses. Et donc, même en 1936, le Front populaire n'a pas changé tout seul, c'est parce qu'il y avait la pression de la rue qu'ils ont changé les choses. Donc, c'est un des courants, il y en a bien d'autres. Les libertaires, autonomes, anarchistes, où il y a différents courants, différents noms, qui sont vraiment bien plus présents en France maintenant, mais qui, ailleurs à l'étranger, étaient très présents dans les années 2000, par exemple, dans le mouvement altermondialiste, qui en France était trop souvent résumé à ATTAC, mais à l'étranger, on parlait tout à l'heure de David Graeber, il était dans tous les forums sociaux, quelques forums sociaux mondiaux, dans contre le G8, le G20, à Gênes ou ailleurs, et donc libertaires, autonomes, sont plus importants en France maintenant, ils sont très... D'ailleurs, ils aspirent aussi, bien au-delà des frontières, c'est très important. Une autre catégorie aussi importante qu'on oublie trop souvent, par exemple, si on prend le mouvement de la Place République à Paris, Nuit debout Paris, il faudrait dire, il y a aussi les jeunes des quartiers populaires, qui sont là aussi, avec à la fois Nuit debout qui rapproche ces jeunes des gens à peu près comme vous et moi, qui étaient la partie la plus visible de la Place République, et en même temps, à chaque fois, il y avait 5-6 mètres entre les jeunes des quartiers populaires et les autres qui étaient en assemblée sans arrêt continuelle, enfin quelques-uns, et les jeunes des quartiers populaires, c'était pas tout à fait ça, mais donc il y a des logiques politiques intéressantes, et je pense vraiment parmi les plus intéressantes, je n'aurai pas le temps de développer ça aujourd'hui, mais je crois vraiment qu'en France, on a enfin un renouveau intellectuel très fort autour de cela. J'étais il y a quelques temps, je ne sais pas si d'autres ont pu y participer, au Bandung du Nord, qui avait lieu à Salonie. C'est tout à fait passionnant, on voit comment il y a une aspiration qui vient de Angela Davis, de tous ces courants noirs américains, des apatistes, des indigènes et d'autres. Et donc c'est un autre courant intéressant. Sur la Place de la République, il y a aussi, par exemple, les véganes, de l'écologie radicale, enfin, il y a plein de choses comme ça. Et puis, il y a une catégorie qui n'existe pas, ou en tout cas, qui d'habitude n'existe pas, et qui est quelque chose entre les anarchistes et la gauche plus traditionnelle, entre les anarchistes et la France insoumise, par exemple. Et donc là, c'est une catégorie sur laquelle je travaille depuis, je crois que le premier article là-dessus, c'était en 2003, donc ça fait quand même quelques années. En général, on dit, soit ils sont un peu mal vus par tout le monde, ces gens-là, et en même temps, ils sont, à mon avis, très créatifs. D'un côté, les autonomes, si on prend, je ne sais pas, les gens du comité visible ou quoi, ils vont considérer qu'eux, c'est à la limite des petits bobos, pas très intéressants, pas assez radicaux. Et de l'autre côté, on va considérer qu'ils sont pas assez organisés, qu'ils sont un peu trop éloignés syndicats. Enfin bref, une catégorie, j'aimerais insister sur le fait qu'il y a une catégorie là qu'on n'a peut-être pas toujours clairement identifiée et qui pour moi est spécifique, qui sont donc les alteractivistes. J'ai mis jeunes alteractivistes, il faut probablement enlever jeunes parce que beaucoup ont vieilli et puis c'est pas forcément lié à l'âge. Enfin donc il y a différentes catégories. Et ce que je vais dire aujourd'hui, je vais me concentrer uniquement sur cette catégorie d'alteractivistes que je vais définir. Avant ça, je veux dire que ces différentes catégories ne sont pas exclusives et que ce sont des catégories analytiques et idéaltypiques. Donc ça, je pense que Weber, tout le monde est à peu près familier avec les idéotypes. Je vais apprendre à peu près ça, c'est pas exactement pareil. Mais quand même, l'idée, c'est que j'essaie de définir de manière la plus pure possible au niveau analytique la logique d'action et la vision du monde cohérente de ces acteurs. Et je sais très bien que dans la réalité, premièrement, les acteurs ne sont jamais tout à fait dans cette logique d'action, que c'est jamais tout à fait cohérent. Et deuxièmement, que dans la réalité, toutes ces différentes logiques se mêlent. Et donc, je reviendrai à la fin de mon exposé sur le fait que les logiques sont toujours mêlées dans la réalité. Et en même temps, j'essaie moins de les isoler pour comprendre les choses. Donc, sans dire que qu'il y a des gens qui sont purement alteractivistes, mais ça me semble une catégorie qui permet de mieux comprendre les choses. Et donc, ma manière de voir les différents mouvements sociaux aujourd'hui, c'est donc d'isoler différentes cultures activistes. Une définition qui est en partie un petit peu inspirée par Arthur Escobar. J'ai peut-être un peu changé un petit peu quand même. Je l'ai défini comme des ensembles, comme un ensemble cohérent d'orientation normative et de logique d'action. Donc il y a ce qui change un peu par rapport à d'autres définitions qu'on peut trouver dans d'autres points de départ dans les mouvements sociaux, c'est que un peu cette perspective part de l'idée que ce qui est au cœur de ces mouvements, c'est une vision du monde, une vision du changement social, une vision de l'engagement, de l'adversaire, de l'organisation du mouvement et des pratiques qui sont cohérentes par rapport à cela. Et donc bien sûr, moi je les approche par des pratiques et par des discours, aussi par des pratiques, mais j'aimerais insister, j'aimerais remettre au centre tout cela, et je suis bien sûr loin d'être le seul, l'importance des visions du monde, cosmovision pour prendre le terme qui vient d'Amérique latine, et des valeurs quelque part, et de cette vision cohérente. Donc bien sûr, il y a des pratiques qui sont liées à ça, et chacune de ces cultures activistes, cultures militantes, va avoir des pratiques particulières. Et donc, je vais expliquer tout cela plus en détail quand je parlerai des alteractivistes. Et donc, pour le temps qui me reste, comme on en a un peu plus que prévu, ce qui est très bien, je pourrais peut-être développer ces 5 points. Donc le premier est simplement, toujours en me basant sur l'altéractivisme, donc je répète que ce que je vais dire, ça ne concerne pas forcément tous les militants, mais je pense quand même qu'en même temps, c'est une tendance qu'on peut trouver dans différentes cultures. Donc premièrement, je vais parler un petit peu du dépassement de cinq clivages, qui est dans l'un des articles de la revue Agora, qui a circulé, de la centralité pour les altéractivistes de l'expérience et l'expérimentation, l'individualisation, le rapport à soi et la subjectivation sera le troisième point, comment est-ce qu'à partir de là on peut repenser la démocratie, et puis finalement quel rapport à la politique institutionnelle, quel rapport au pouvoir, et surtout après 2015, puisqu'il y a eu quand même quelques petits changements au cours de ces décennies. Un point que j'ai oublié peut-être pour revenir un instant sur la culture, sur les cultures militantes, pour illustrer la pertinence de ce concept, en tout cas pour moi. Je pense qu'il y a trop souvent en sociologie, même si on le dénonce tout le temps, on reste dans un cadre qui est marqué par le nationalisme méthodologique. Qui, évidemment, il y a un pays qui est un peu champion du monde du nationalisme méthodologique, ou presque, hein, je ne vais pas forcément le citer, mais où on a l'impression que tout est toujours en permanence réinventé en France. Et donc, que les cultures, et c'est un problème aussi pour les enquêtes quantitatives, bien sûr, où la plupart des données quantitatives que nous avons, elles sont faites par pays, et on compare à l'intérieur d'un pays. Quand on parle de l'activisme, on parle souvent, c'est beaucoup des données nationales. Moi, ce qui m'a frappé quand je travaillais sur l'altermondialisme, c'est de voir à quel point il y a des cultures qui sont tellement similaires d'un pays à l'autre et qui, en même temps, à l'intérieur du pays, elles sont différentes. Par exemple, je parlais tout à l'heure des jeunes populaires. J'étais marqué, ça m'a vraiment surpris de voir comment ces pratiques de ces jeunes populaires, par exemple, type des jeunes de banlieue qui venaient à raciser, comme on peut dire aujourd'hui en France, comme on disait auparavant ailleurs, se rapprochaient beaucoup de jeunes populaires que j'ai pu voir en Grèce ou ailleurs, ou au Mexique. Et par contre, la logique se rapprochait beaucoup plus d'autres jeunes en Grèce ou au Mexique que de ceux qui étaient juste à côté, les Parisiens, classe moyenne intellectuelle, à très haut capital culturel, qu'il faut dire ici. Non donc, c'est tout ça pour dire que vraiment, il y a une unité qui, pour moi, est bien plus dans la logique d'action, la culture activiste, que dans le territoire national. Donc, il y a ici des cultures qui, pour moi, la plupart, sont transnationales. Par exemple, j'ai terminé récemment un article sur la Roumanie, où on voit comment, avec une collègue qui a fait un postdoc, une Roumaine, qui connaissait bien mieux les mouvements roumains, évidemment, que moi, on voit comment il y a des cultures qui sont, bien sûr, qui résonnent les unes avec les autres, mais aussi il y a des points communs beaucoup plus forts, parfois, entre des mouvements altéractivistes ou des acteurs, pour le coup, qui sont aussi parfois néolibéraux. Et donc, il y a des résonances qui sont beaucoup plus internationales et des divergences nationales très importantes. Bon, bref, voilà pour les cultures activistes, ce sera sans doute plus clair au fil de l'exposé. Dépasser les cinq clivages, ce serait donc le premier point. Donc, le premier, aucun de ces clivages n'est vraiment neuf, je ne prétends pas apporter ici, expliquer que tout ça est nouveau. Je crois que c'est un autre article qui a circulé dans lequel je suis vraiment opposé à l'idée même de nouveauté, parce que c'est toujours très compliqué. Je pense que pour les sociologues, on n'a pas beaucoup de recul pour voir la nouveauté. Et on va plutôt laisser ça aux historiens. J'ai un ami, Brian Doherty, qui est un sociologue de mouvements sociaux très, très prolifique, très intéressant, qui m'explique qu'en gros, il a fait lui une généalogie de l'action directe. Et en gros, sa conclusion, c'est de dire que chaque fois qu'il a 6 semaines pour travailler sur les archives ou sur des mouvements, il remonte d'au moins 50 ans pour retrouver les origines de l'action directe. Plus on travaille dessus, plus on peut retourner en arrière. Et ici, donc, on va trouver beaucoup je ne me prétends pas du tout en tout cas dire que ce que j'explique c'est nouveau, c'est simplement, à mon avis, intéressant. Premier clivage, on le trouvait déjà beaucoup dans le livre de Michel Debré, c'est le dépassement entre l'individualisation et l'engagement. Cette idée, je pense que pour la plupart sont déjà convaincus de tout ça, le fait que ce sont, pour les altéractivistes, ce sont des acteurs qui sont très individualisés mais pas égoïstes, je reviendrai longuement là-dessus. Là, j'aimerais aussi insister au fil de l'exposé sur l'importance de la construction de soi, le rapport à soi, la subjectivation. Subjectivation, je définirais comme la construction de soi comme principe de sens. C'est-à-dire que le sens de l'action se définit avant tout par rapport à soi-même, par rapport à soi, bien plus que par rapport à une organisation, par rapport à un manifeste ou d'autres choses. J'y reviendrai. La centralité de l'expérience également. Et puis, donc, il y a quelques. Bon, je ne vais pas développer ça maintenant, j'y reviendrai. Tout à l'heure. Ce sont un peu 5 clivages qui traversent tout l'exposé. Le deuxième, rien de neuf non plus, c'est dépasser le clivage entre la vie privée et l'engagement public. Rien de neuf et en même temps, ça, il faut toujours se le rappeler. C'est vrai qu'on a l'impression, quand on lit quelques collègues politologues, que tout ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans la rue, sur les plaines, ce qui est visible dans les journaux. Et ce qui n'est pas visible dans les journaux, ce n'est pas politique, ce n'est pas très intéressant. Donc, encore une fois, ici, Michel Taubré, en France, est sans doute celle qui, dans les années 2000, est la première à avoir redit ça. Et je pense que c'était très, très discuté à l'époque comme maintenant. Et donc, l'idée ici, c'est bien sûr que non seulement le quotidien est politique, aussi le personnel est politique, et même le processus de subjectivation, la construction de soi est aussi un enjeu des mouvements. Et donc là, on voit l'activisme qui devient aussi, du coup, non seulement performatif, mais non seulement préfiguratif, mais aussi performatif. C'est-à-dire que l'objectif de l'engagement et les moyens de l'engagement sont finalement sont la même chose. Donc l'importance du changement de soi. Et puis, on va peut-être questionner un autre auteur qui a beaucoup inspiré ma génération, Jean Quillon. Je ne sais pas si on le lit à Cour beaucoup aussi. Il me semble qu'est-ce qu'il n'était pas connecté à Caen aussi, lui, Jean Quillon. Je ne sais pas, non. Oui, oui. Et donc, Jean Quillon qui, dans son livre, en gros, il dit c'est maintenant l'engagement n'est plus total, c'est un engagement post-it, etc. Et donc, du coup, je pense qu'il avait en partie raison, mais seulement en partie. Parce que les alter-activistes avec lesquels je parle, je pense qu'on peut parler d'un engagement total, mais autrement. C'est-à-dire que toute leur vie n'est pas définie comme... C'est pas comme au temps du Parti communiste. Toute leur vie n'est pas structurée par une organisation. Par contre, ils ne sont pas militants que quand ils vont faire des réunions. Par exemple, chaque fois que je fais un focus group avec des militants ou un entretien avec des militants écologistes, je leur pose une question complètement stupide. C'est combien de temps passez-vous, combien de temps dédiez-vous chaque semaine à l'engagement ? Et la réponse que j'ai presque tout le temps, c'est « mais ça ne veut rien dire ». C'est pas que je suis militant quand je vais 2 heures participer à une réunion, que je fais une petite action, non. Je suis écologiste, je suis féministe, ou je ne suis pas. Et donc, on est écologiste dans sa vie quotidienne, la manière de consommer, d'éviter les bouteilles en plastique, d'éteindre la lumière à la limite. On est féministe pas quand on va faire une action, on l'est ou on ne l'est pas. Et dans ce sens-là, je pense que c'est un engagement qui est profondément, qui implique toute la vie, mais d'une autre manière que, évidemment, que l'engagement total qu'avait en tête Jean Quillon, qui est plutôt le modèle communiste en France. Troisième clivage sur lequel j'ai pris de parler beaucoup, mais j'ai déjà beaucoup parlé, donc je vais passer tout ça rapidement, c'est la dichotomie en ligne-hors ligne. Évidemment, ça, pour tout entendre, hein, beaucoup de sociologues sont un peu extasiés sur Internet, qui est très important, qui a transformé profondément l'engagement. En même temps, je pense que l'erreur qu'on a faite pendant assez longtemps, c'est de voir ça comme quelque chose de séparé. En fait, ce qui compte, ce qui est toujours plus intéressant, ce n'est pas l'activisme en ligne. Et puis de l'autre côté, hors ligne, c'est l'articulation de tout ça. Comment un mouvement comme Nuit Debout est vécu en même temps en ligne et hors ligne? Comment ce qui est en ligne se construit sur la place et en dehors de la place? Comment on peut vivre l'expérience de Nuit Debout quand on n'y va pas? Ben, on le voit par... c'était pas Télégraphe, c'était l'autre. J'ai oublié ça, je vais voir un peu plus loin. Périscope, voilà, j'ai oublié ça malheureusement. Donc on voit par périscope et donc on voit comment en ligne et hors ligne s'articulent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on retrouve l'autre clivage, donc la vie quotidienne et l'activisme qui ne sont pas séparés. C'est exactement ce qu'on retrouve sur Facebook, par exemple, une plateforme. C'est quand même bizarre de voir Facebook aussi utilisé un peu partout dans le monde. Donc c'est la plateforme capitaliste par des grandes entreprises. Mais une des raisons, c'est que Facebook, justement, c'est cette possibilité de mêler en ligne, hors ligne, vie quotidienne et engagement. On voit par exemple, regardez les profils Facebook d'un ou d'une végane. Vous voyez comment l'engagement, on trouve plein de choses sur les animaux, et puis on trouve l'anniversaire d'un tel, et puis la fête, et puis on retrouve l'engagement, tout cela est très mêlé. Et donc, sans m'y arrêter, mais simplement ce qu'on a vu à partir de 2013-2014, clairement dans la littérature sur les mouvements de place, c'est d'abord que c'était pas, contrairement à ce qu'on a dit, c'était pas des mouvements Facebook, au contraire, il y a une reterritorialisation. Et donc, c'est vraiment l'articulation qui était importante ici, c'était pas des mouvements Internet. C'était clairement pas, même si Internet avait un impact. Deuxièmement, je viens de le dire, l'importance de l'expérience qui se vit et se construit à la fois sur la place et en ligne, donc y compris les nouveaux médias pour vivre le mouvement. Troisièmement, il faut souligner ce point-là aussi, le fait que les nouveaux médias, contrairement à ce qu'on a pensé un temps, n'ont pas remplacé les masses médias. C'est plutôt une écologie des médias. Et peut-être que, bon, plus jeune d'entre vous, ça paraît tellement évident, mais c'est vrai que pour il y a quelques années, on pensait que, évidemment, l'influence de la télévision a beaucoup diminué. C'est le cas, je pense, grâce aux réseaux sociaux. On le voit beaucoup au Mexique, un petit peu au Brésil pour l'instant. Mais en effet, ce qu'il faut penser, c'est plutôt une superposition. C'est pas que la radio a disparu, elle n'est plus importante. C'est que la télé s'est articulée à la radio, et puis maintenant les réseaux sociaux. Et donc, il y a une bataille de l'information qui passe aussi par là et qui est vraiment importante aujourd'hui dans l'engagement d'aujourd'hui. Je pense à Télévisain au Mexique, au Globo. Il suffit de voir à qui appartient la presse en France pour comprendre l'importance. Quatrième petit point dans ce, dans ce point sur Internet. Je pense qu'on est aussi beaucoup revenu sur la culture Internet qui était vue comme ouverte et tolérante pendant longtemps, alors qu'en fait, on voit clairement aujourd'hui que le racisme se développe beaucoup dans ces espaces semi-publics, semi-privés. Et puis, cinquièmement, l'importance aussi des inégalités digitales, en disant oui, Internet ouvre beaucoup d'accès. On voit la multiplication des radios populaires, par exemple, un peu partout, surtout en Amérique latine. Mais en même temps, il y a plus d'espaces publics, notamment en ligne, mais ce sont des espaces publics fragmentés. Et donc l'accès aux espaces publics reste toujours un grand enjeu des mouvements sociaux. Quelles voix sont entendues, quelles voix ont un impact, ça reste une question importante, même à l'heure d'Internet. Enfin, bref, j'étais un peu vite là-dessus, parce que le temps passe. Le quatrième clivage qu'il faut dépasser, je crois, aujourd'hui, ce sera peut-être un débat avec Salvatore, en tout cas par rapport à la Touraine. Je crois que la notion de nouveaux mouvements sociaux, je ne sais pas s'il y a parlé encore beaucoup d'entre vous, mais c'est l'idée que la Touraine avait, comment on appelle ça, il a mis ce concept de nouveau mouvement social en opposition au mouvement ouvrier. Le mouvement ouvrier, les anciens mouvements, ce seraient des mouvements qui étaient beaucoup plus matérialistes, où les enjeux c'était bien plus la redistribution, pour prendre le terme d'autres auteurs, hein, je n'utilise pas forcément Touraine. Et puis à partir des années 60, 68, on trouve des mouvements beaucoup plus culturels, où l'enjeu c'est la culture, voire le sujet de la subjectivation. Donc j'ai évidemment un grand débat, je reste, comme vous l'avez déjà sans doute constaté, très inspiré par la Touraine, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec là-dessus. Je pense que quand on regarde aujourd'hui, il n'y a pas cette séparation dans les mouvements d'aujourd'hui, c'est évident que les mouvements sont à la fois sociaux et culturels, qu'on ne peut pas séparer les deux. Les mouvements viennent, je parle ici de la place des jeunes dans la société, il ne faut pas aller loin pour voir que la précarité et les inégalités, ça structure la vie des jeunes aujourd'hui. Et en même temps, il y a cette affirmation culturelle et cette subjectivité. Et donc, on ne peut pas séparer les deux, ils s'articulent profondément. Et puis quand on va voir un peu plus loin, on se dit, mais en fait, il y a quand même cet article important de Craig Calhoun, qui s'appelle « Les nouveaux mouvements sociaux du 19e siècle », il voit comment, ou le fameux livre « The Making of the English Working Class », on voit l'importance de la culture dans les mouvements ouvriers. On voit toutes les caractéristiques des nouveaux mouvements sociaux pour Craig Calhoun dans un mouvement du 19e siècle. Et je dirais aussi, quand on regarde un peu les mouvements des années 60, il n'y a pas longtemps, la biographie d'Angela Davis, pour ceux qui n'ont pas encore lu, ça paraît incontournable, on voit à quel point les inégalités, c'était quand même très central dans cette lutte. Et donc bien sûr que vu du quartier latin, des étudiants du quartier latin, ça paraissait un peu moins important, mais enfin, dès qu'on regarde un peu plus loin, ces aspects matériels de redistribution étaient des très importants à l'époque. Et ce qui me semble intéressant, c'est qu'on voit avec le mouvement altermondialiste une première étape, pas une première étape, une autre étape, on va dire, où on a eu clairement, avec l'altermondialisme, les deux aspects. L'aspect culturel, l'aspect de subjectivité, quand même le mouvement zapatiste, le 1er janvier 1994, c'est sans doute le début du mouvement altermondialiste. En zapatiste, on voit tout l'aspect indigène, culturel. Mais si vous lisez les communiqués zapatistes des deux premières années, ils ne parlent que d'économie, d'inégalité, de capitalisme. Et donc l'aspect économique est très important là-dedans. Et en France, on a identifié trop fortement l'altermondialisme à attaque aux experts, qui eux parlaient que d'économie. En fait, il y a tout l'aspect aussi culturel, identitaire, la subjectivité, l'autonomie qui était aussi très présent dans l'altermondialisme. Et on voit bien comment les deux étaient présents. Je pense qu'avec les mouvements de 2011, on a encore fait une étape de plus. C'est-à-dire que l'altermondialisme, c'est ce que j'expliquais dans le livre sur l'altermondialisme, en effet, il y a quelques années déjà, il y avait le culturel et les enjeux économiques sociaux. Dans les mouvements post-2011, on peut vraiment plus distinguer les deux. Les deux sont profondément articulés. Bon, je pense que Notre-Dame-des-Landes, c'est un bon exemple, mais il y a plein d'autres exemples de cela. Et puis finalement, le cinquième et dernier clivage, il faut que je passe une partie de l'exposé, sans doute, c'est l'idée de... Je pense qu'il faut penser en même temps les résistances et les alternatives. J'ai un débat avec un nom que j'ai oublié de mentionner là-bas, avec mon ami John Holloway, qui était un autre auteur qui a inspiré toute ma génération, pas en France, mais ailleurs, toute la génération des chercheurs sur l'altermondialisme. John Holloway avait écrit un livre, « Changer le monde sans prendre le pouvoir », traduit en français en 2009, mais traduit un peu partout en 2002-2003. Et donc lui, il insiste, d'accord, il a fait la préface d'un livre qui s'appelle « Le Mexique en mouvement », Et je l'avais invité quand on a fait un colloque sur les mouvements sociaux au Mexique. Et lui, il a bien sûr détruit le concept de mouvement social parce qu'il dit non, ce qu'il faut dire, c'est la résistance au capitalisme, etc. Je pense qu'ils ont raison, en fait, et résistance, c'est le mot, le buzzword maintenant, on entend parler partout, resistance studies, c'est très à la mode. Mais en même temps, ce qui est important de voir, c'est qu'il y a en même temps l'opposition et l'alternative qui parfois s'articulent, mais bien souvent sont la même chose, qu'on ne peut pas vraiment distinguer dans les pratiques. C'est dans les pratiques du quotidien qu'est à la fois la résistance et l'alternative. Et là, il y a vraiment une combinaison, un clivage qui était trop souvent fait. On a dit, Touraine parle de l'opposition comme un principe sacré des mouvements sociaux. Bon, je ne suis pas si sûr. Je pense qu'en tout cas, il y a beaucoup plus la plupart des militants que je connais passent bien plus de temps à mettre en place des alternatives qu'à s'opposer à quelque chose, qu'à manifester ou faire d'autres choses. Et en même temps, c'est ce qu'ils font comme alternative, c'est aussi l'opposition. Et donc là, ça me paraît intéressant de penser les deux en même temps, ce qui nous conduit aussi à repenser la place du conflit. On discutait tout à l'heure, l'ASAT, par exemple, Notre-Dame-des-Landes, c'est vraiment intéressant pour voir comment il y a en même temps un conflit et en même temps la création d'autres mondes de vie, d'un espace d'expérience. Il y a en même temps des résistances quotidiennes et un engagement préfiguratif. C'est juste ici quelques pistes pour repenser tout cela. Et encore une fois, ce n'est pas nouveau. Je pense que dans le livre de Michel Dobré, on voyait déjà pas mal ces éléments. Donc voilà pour la première petite partie. Pour la deuxième, j'aimerais insister sur les deux concepts centraux pour moi de l'altéractivisme, qui sont l'expérience et l'expérimentation. Expérience qui est en France, je pense que François Dubé, notamment, c'est surtout une source d'inspiration, Kevin MacDonald ou d'autres, et bien sûr Habermas. L'expérience en français... En allemand, il y a trois sens, mais en français, dans la plupart des autres langues, il y a deux sens de l'expérience. D'un côté, il y a l'expérience vécue, Lebensfeld, Habermas. C'est quelque chose qu'on vit, et donc qui est forcément personnel. C'est la créativité, c'est l'expérience vécue d'un mouvement social, de la vie, d'autres choses, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas tout à fait transmettre. On ne peut pas faire l'économie de le vivre. C'est pour ça qu'il y a souvent l'expression qui vient de vivre un mouvement social, par exemple, vivre nu debout ou d'autres choses, avoir faire l'expérience nu debout ou d'autres mouvements. Et donc ce qui est intéressant ici, c'est à la fois préfiguratif et performatif, comme je le disais, c'est-à-dire que l'expérience, c'est à la fois le moyen de s'opposer au monde, peut-être André Gorz serait intéressant là-dessus ou d'autres, au monde, au système de Habermas, au monde de plus en plus à la sérialité, et en même temps, donc c'est le moyen et la fin. L'objectif dans l'autre monde possible, évidemment, c'est de favoriser ces expériences vécues, cette libération, cette émancipation, le fait de pouvoir être acteur de sa propre vie, acteur de sa vie et de son monde. Ce ne sont pas deux choses séparées. Et donc il s'agit de défendre son expérience, sa créativité, bien sûr aussi de l'affirmer. Donc l'importance de l'art là-dedans, en prenant la formule de Deleuze, « Résister, c'est créer », qui est un excellent livre aussi de... je ne sais plus sur son nom. « Résister, c'est créer » qui avait écrit... Abensour. Non, ce n'était pas Abensour, c'était... Miguel Benassayac, qui écrit un livre « Résister, c'est créer », qui était aussi très bon là-dessus. L'autre sens de l'expérience, c'est expérimentation. On parle par exemple d'expérience scientifique. Et donc, l'expérimentation, c'est au cœur de tous ces mouvements. Et donc, je ne veux pas surtout les altermondialistes, mais je pense que ça s'applique beaucoup aussi au mouvement des plans, c'est au mouvement plus récent. Et donc, ça transforme le concept de changement social avec une date que la plupart d'entre vous ont oubliée parce que ça paraît vraiment la préhistoire. Quand j'ai commencé à travailler sur le mouvement antimondialiste, c'était pas si loin que ça. C'est quand même, beaucoup de ces mouvements se construisent dans un premier temps contre, ou après 89. On a quand même, ce sont les mouvements, les zapatistes ouvrent un peu le 21e siècle pour les mouvements sociaux. On dit, Hobsbawm dit que la révolution mexicaine, c'est la première révolution du 20e siècle. Mais il se fait que le premier grand mouvement du 21e siècle, c'est aussi au Mexique, ce sont donc les zapatistes, les indigènes zapatistes qui ont créé des zones autonomes. Et donc, on voit bien là comment ça se construit contre l'idée, en gros, du soviétisme. Le soviétisme où il y a un manifeste du Parti communiste, où en tout cas on sait ce qu'il faut faire, on va l'imposer à partir de l'État, etc. Et donc, il y a toute une série, et c'est évidemment l'échec du XXe siècle, comme le dit John Holloway dans son livre, il y a eu des générations de militants de militants pleins d'idéaux, qui ont appris le maniement des armes, qui ont fait des révolutions, qui ont sacrifié toute leur vie familiale. Qui ont été bien loin, fait des révolutions, tout ça pour se trouver ensuite trahi par une fois que la révolution avait pris le pouvoir. Et donc face à ce constat, il y a toute une série, il y a une grande créativité, notamment dans les années 90. Et donc l'expérimentation vient au centre parce qu'il y a une réflexivité constante, l'idée qu'on ne veut pas de plan préconçu, on ne sait pas comment changer le monde, mais l'expérimentation est plus importante, c'est le processus qui compte avant tout. Comme on dit, le chemin se construit en marchant, pour reprendre un adage zapatiste. Ce sont des choses, je pense, qu'on trouve beaucoup dans les mouvements des places aujourd'hui, ou il n'y a pas longtemps en tout cas. Donc l'activisme préfiguratif, c'est-à-dire que dans l'action, il s'agit de préfigurer l'autre monde possible. L'autre monde possible, ce n'est pas simplement ce qu'on veut faire advenir demain, mais c'est déjà présent aujourd'hui. D'où l'importance, pour les alteractivistes, pas pour d'autres cultures militantes, de l'organisation démocratique et participative du mouvement, Et là, on voit donc, du coup, toute une série de clashs qui se produisent dans tous les mouvements, et c'est bien normal. On voit comment, par exemple, on est dans un même mouvement, le mouvement intermondialiste en France, toute une série de gens qui pensent avant tout à mettre en œuvre leurs valeurs, c'est là, ce qui est au cœur de l'altéractivisme, il faudrait cohérent, une cohérence entre ces valeurs, l'horizontalité, etc., et ces pratiques. Et dans le même mouvement, on arrive à faire des fraudes électorales dans Attac, en France, en 2006, donc il y a une fraude électorale avérée, aucun doute là-dessus. Mais simplement parce que cette culture altéractiviste n'était pas partagée par tout le mouvement. Il y a aussi d'autres qui priorisent, par exemple, l'efficacité. Et donc, quand on pense expérimentation, ce qui compte beaucoup, c'est le processus, c'est le changement qui commence par soi-même, la transformation de la manière de vivre ensemble, la convivialité. Je pense qu'Ivan Illich, c'est sans doute un des auteurs qu'il faudrait reprendre davantage, pas seulement pour l'écologie. Et donc, tout ça se fait dans la vie quotidienne au niveau local. Ce n'est pas que le changement s'arrête à la vie quotidienne au niveau local, mais c'est le niveau local qui permet donc de le mettre en œuvre très concrètement avec cette cohérence dans les pratiques. Et donc, le mouvement qui est à la fois le vecteur de l'alternative et l'objectif, finalement. Je reprends ici une phrase de 2003 des altéractivistes parisiens et qui me semble vraiment qu'on aurait pu coller sur à peu près n'importe quel mouvement des places. Tout ça pour redire que... ce qui s'est passé à la place à l'Essol, ce n'était pas forcément complètement nouveau. On disait en 2003, nous ne dissocions pas nos pratiques de nos objectifs, nous choisissons un fonctionnement horizontal, antisexiste, auto- et éco-gestionnaire à partir de regroupements affinitaires. Et donc voilà, c'est quelque chose qui incarne bien, je crois, les mouvements des places. Et ce qui s'est fait sur les places pour les apatistes et d'une série d'autres mouvements, je pense qu'un des éléments centraux pour les altéractivistes, peut-être aussi pour une partie du mouvement autonome, on peut en discuter, c'est finalement de créer dans ces mouvements, ce que j'ai appelé avec quelques autres auteurs, des espaces d'expérience. Donc il y a plein d'auteurs qui travaillent sur des concepts un peu similaires. Ici, notamment Kevin MacDonald, il y a aussi la TAS, la zone autonome temporaire, Hakim Bey, peut-être le Free Space aussi de Francesca Poletta, enfin il y a toute une littérature là-dessus. Et donc, je propose de penser tout ça en termes d'espace d'expérience. Qu'est-ce qu'un espace d'expérience ? C'est un espace suffisamment autonome et distant de la société, vous pouvez mettre le thème que vous voulez, néolibéral, capitaliste, dualiste, enfin tout ce que vous n'aimez pas, pour permettre quatre choses. Premièrement, vivre selon ses propres principes, c'est l'étymologie du terme autonomie. Deuxièmement, construire des relations sociales conviviales dans le sens Illich. J'insiste un peu parce qu'on dit souvent que le fait qu'on se retrouve entre activistes sympathiques et qu'on trouve plein d'amis, bon, c'est très chouette, c'est plaisant, mais voilà, c'est pas le cœur du mouvement. Je pense qu'ici, vivant ces mouvements-là, ces relations sociales, c'est le cœur du mouvement. Je reprends par exemple un texte de Anna Esser-Sessegna qui dit clairement que le capitalisme individualise et refroidit toutes les relations sociales. L'idéal du capitalisme, c'est en gros l'hypermarché, mais pas le supermarché. Ce qui est fantastique dans l'hypermarché, c'est qu'on peut faire toutes ses courses, acheter tout ce qu'on veut, sans voir personne, et il est même possible de ne même pas parler avec la caissière. Et donc ça, c'est le top, quoi. On est vraiment dans le super capitalisme, on a l'argent, donc quand on paye quelque chose, la relation sociale est terminée, on est, voilà, il a eu son dû, je ne dois plus rien. Et donc là, on voit l'importance, comment le capitalisme a transformé toutes nos relations sociales, et justement, remettre, changer ces relations sociales, c'est au cœur de ces mouvements, et les espaces d'expérience permettent de le faire plus fortement, plus librement qu'ailleurs. Par exemple, bon, pour parler un petit peu de consommation critique, je pense que ce qui se passe, par exemple, dans les AMAP ou d'autres mouvements, c'est pas du tout anodin. Bien sûr, ça a l'air petit, on n'en parle pas tous les jours dans la presse. D'une part, c'est massif en France aujourd'hui. Ça implique pas mal d'argent, mais surtout, ça implique beaucoup de gens. Et c'est fantastique qu'une fois qu'on a payé ou qu'on a donné l'échec, après, pendant toute l'année, on ne parle plus une seule fois, en gros, d'argent avec le producteur. Et on est tous très contents d'avoir des légumes. On le remercie, une relation sociale qui s'établit. Enfin, il y a plein de choses qui se font. Les relations sociales, c'est vraiment un aspect fondamental. On voit comment dans l'espace expérience, si je prends l'exemple de Nuit Debout, ce qui était très fort là-bas, c'est un mouvement très individualisé, bien sûr. Mais en même temps, tout le monde insiste sur la qualité des relations sociales. On entend beaucoup le fait qu'on est ensemble depuis deux ou trois jours, mais on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours, des relations d'intersubjectivité. Ce sont vraiment des aspects essentiels. Troisième dimension, ce sont des espaces qui favorisent l'expression des subjectivités, beaucoup de créativité, le fait que si on prend le terme de Lebensfeld Habermas, dans les espaces dans la société dominante, en effet, les subjectivités sont toujours réprimées, la créativité, il y a un format. Tout le monde sait bien que pour réussir sa vie, on sait ce qu'il faut faire. Il faut faire les bonnes études, gagner beaucoup d'argent, aller en vacances, avoir une grosse voiture, une grosse maison. Et donc là, justement, l'idée, c'est de faire proposer d'autres voies, des subjectivités différentes qui se construisent. Et pour ça, elles se construisent notamment, pas uniquement, mais notamment dans les espaces un peu intermédiaires qui sont à moitié dans ce monde et à moitié en dehors. Et puis finalement, ce sont des espaces un peu protégés qui permettent, qui favorisent les processus de subjectivation, la construction de soins d'une manière différente. Et donc, il s'agit moins des pratiques de contre-pouvoir, un terme employé peut-être par John Holloway, je dirais plutôt ici que ce sont des pratiques d'anti-pouvoir. L'idée, c'est de construire des espaces, les militants diront, sans relation de pouvoir. Les sociologues quand même vont dire qu'il y a toujours des relations de pouvoir partout, mais donc, on va dire en tout cas, l'idée de l'anti-pouvoir, pour moi, c'est au moins d'essayer d'être conscient de ces relations de pouvoir et d'essayer de les limiter. C'est jamais tout à fait possible. Je pense que le meilleur exemple, on en parlait tout à l'heure, c'est David Graeber, que j'espère que vous connaissez tous, mais qui était très clairement, j'ai eu l'occasion de passer quelques semaines à New York, au moment d'Occupy Wall Street. David Graeber, c'est le leader du mouvement des 100 leaders qu'il analyse. Et donc, il peut dire qu'il n'y a pas leader parce que leader, c'est lui, mais clairement, c'est quelqu'un qui est bien plus influent que les autres, etc. Donc, il y a, quoi qu'on en fasse, il y a toujours des relations de pouvoir. On le voit, il y a quelques très bonnes thèses sur Notre-Dame des Landes, notamment, où on voit que ce n'est pas évident. Mais le fait même d'être conscient de ces relations de pouvoir, de vouloir faire autre chose, ça permet de les diminuer. Et donc, c'est un processus constant. Ce n'est pas qu'on dit, on va faire un espace d'expérience, il n'y a pas de relation de pouvoir, point. Non, pas du tout. C'est un processus constant et l'engagement, dans toutes les formes d'engagement, je crois, mais encore un peu plus dans l'interactivisme, c'est une espèce de lutte constante, en partie contre soi-même. Et c'est là peut-être aussi que John Holloway a une très belle phrase. Il dit, ce qui est opprimé, ce que nous devons défendre, c'est une partie de chacun d'entre nous. C'est notre subjectivité, notre créativité, notre sexualité. C'est ce qui fait vraiment ce que nous sommes nous-mêmes. C'est ça que nous devons défendre face à l'invasion capitaliste. Donc, comme je vous le dis, j'ai un débat assez régulier avec lui. Et je suis tout à fait d'accord avec sa phrase, mais j'aimerais juste ajouter que le petit souci, c'est que si ce qui est opprimé, c'est cette partie de nous-mêmes, je pense aussi que l'oppresseur, c'est aussi en partie nous-mêmes. Et donc, dans ce type de mouvement, on ne voit pas le capitalisme, la société dominante, d'autres choses, uniquement comme quelque chose d'extérieur. Le conflit, le mouvement social, quelque part, traverse la personnalité de chacun d'entre nous. Et donc, c'est une lutte en partie contre une partie nous-mêmes, parce que nous sommes... et ça, c'est très bien, notamment sur le livre « Crack Capitalisme ». Je ne sais pas comment c'est traduit en français, j'imagine son livre 2010. Ils sont être en français, non? Mais donc, il explique aussi qu'il y a des petites résistances un peu partout et qui sont des luttes contre le capitalisme, mais surtout que la lutte ne part. On ne lutte pas contre ce système à partir de rien, d'un monde idéal. On lutte dans le système et donc aussi avec tous nos défauts, notre formatage par le système. Et donc voilà, donc je pense qu'encore une fois, la lutte autour de la subjectivation, des formes de subjectivité ici est centrale. Je ne vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus. Peut-être juste les deux derniers éléments. Le fait, l'importance, cette intensité de l'expérience personnelle dans ces espaces d'expérience. Et puis, le dernier point sur le problème de la délégation, qu'on retrouve dans à peu près tous ces mouvements. Le problème de l'expérience vécue, c'est qu'on ne peut pas la déléguer. C'est que personne ne peut vivre mon expérience à ma place. Et donc, du coup, personne ne peut parler de mon expérience. On le voit beaucoup dans ces mouvements, ce qui est le plus intéressant, c'est toujours l'échange d'expérience, le partage d'expérience. On n'apprend pas l'expérience en échangeant l'expérience des autres avec sa propre expérience. D'où l'importance, encore une fois, de l'aspect collectif. Ce ne sont pas que des mouvements, ce ne sont pas des individus isolés. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas déléguer l'expérience et en même temps, peut-on construire un mouvement sans aucune délégation? Je pense que toute l'expérience du mouvement récent montre clairement que ça pose pas mal de problèmes et que s'il n'y a pas de délégation, on passe son temps en assemblée permanente comme on l'a fait dans beaucoup de mouvements des places. Enfin, voilà. Et donc, il y a donc des espaces d'expérience qui sont parfois éphémères, parfois moins. Les apartistes sont là depuis, en tout cas, ils ont en communauté autonome depuis bientôt 25 ans. Des territoires de l'expérience, comme la ZAD notamment. Je prends un entretien avec Martin, qui parle de la ZAD comme une expérience de vie en collectivité. Sur les ZAD, on met tout en commun, savoir et pratique. On n'est pas seulement dans une contestation du système, on cherche, on construit et on propose un monde de vie alternatif. Ce qui se passe est très positif. Et donc voilà, il y a plein de type d'espace d'expérience. Je pense que, par exemple, un espace d'expérience, c'est aussi la construction du mouvement. On voit comment il y a dans les mouvements, je pense au mouvement pour la paix au Mexique, à beaucoup de mouvements féministes, comment la construction elle-même de ce mouvement, l'objectif du mouvement est dans le mouvement lui-même, et donc il construit un espace dans lequel la parole se libère, un espace dans lequel les gens peuvent s'exprimer plus librement. On le voit dans beaucoup de sections du mouvement MeToo. Et donc voilà, je mettrai quelques limites de tout cela. Ce sont des mouvements qu'on voit dans les campements, les occupations des places, qui sont passionnants, avec aussi une idée très importante, et qui est profondément moderne, je crois, c'est le fait que quand on vit là-dedans, on a le sentiment d'être acteur. Ce qui est fantastique, parce qu'on a tous, comme individu moderne, cette volonté, je dirais cette nécessité de se sentir acteur. On se sent tellement démuni par rapport à tout ce qui se passe, l'environnement, la catastrophe climatique, la politique et tout. Le sentiment que tout le monde a dit, oui, vraiment, je suis très content de ne pas être tout seul. Et en plus, on a le sentiment d'être acteur. On est sur la place et on a l'impression que tout ce qu'on fait sur cette place, ou à Notre-Dame-des-Landes ou ailleurs, ça a un impact direct sur le changement de la société. L'exemple le plus fort pour moi, c'était le mouvement de Gezi Park. Je ne sais pas si vous avez beaucoup entendu parler de ça, le mouvement en Turquie. On en parle un petit peu dans un livre qui s'appelle « Mouvement social quand le sujet devient acteur ». Et donc, tous ces gens qui étaient à Gezi, une occupation fantastique en Turquie, qui portait en elle les gemmes d'une Turquie démocratique qu'on ne verra sans doute pas avant très longtemps maintenant. Et donc, ces gens-là étaient très mobilisés, des gens de tous les âges, et ils arrivent ensemble avec différentes confessions, les religions différentes, tout ça se mêle. Vraiment un mouvement extraordinaire. Et tous avaient été convaincus que ce qui se jouait sur la place, c'était l'avenir démocratique de la Turquie, voire même bien au-delà. Et donc, vraiment, là, on est tous, tout d'un coup, on est pris par cette... on est heureux parce qu'on a, on peut agir, on a un impact. Donc, Gezi Park, c'est le mois de juin, un petit peu juillet 2013. Fin juillet et au mois d'août, il y a un référendum et deux élections en Turquie, tous les trois gagnés par l'AKP, le parti du président dictateur Erdogan. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout d'un coup, les militants sont complètement déprimés. On pensait qu'on changeait la Turquie dans nos petits mouvements sur les places, que ça avait un impact direct, ce qu'on faisait là-bas. Et concrètement, la population ne fait pas ça du tout. Et ceux qui gagnent en force, c'est plutôt les adversaires. Et donc là, il y a vraiment toute l'idée, tout le débat, le défi, les limites, mais je dirais plutôt le défi de ces mouvements-là, pour dire quel impact a-t-on, et sans dire que ce n'est pas important, j'insiste, c'est très important ce qui se passe dans ces espaces, en même temps, est-ce qu'on peut changer le monde en multipliant les espaces alternatifs autonomes? Est-ce qu'on peut changer, arrêter le capitalisme en multipliant les îlots alternatifs? Est-ce qu'on peut changer le monde uniquement en se changeant soi-même? Et donc, il y a des études fantastiques sur la subjectivité des militants. Après, Gezi Park, par exemple, on voit la dépression des militants, dépression des sociologues, pour ceux qui ne sont pas encore en prison. Et donc, il y a cet aspect, je pense, aussi intéressant au niveau théorique du lien, des tensions, articulations entre la subjectivité, subjectivation, l'engagement préfiguratif d'un côté et le changement social. Parfois, ça va très bien ensemble, mais malheureusement, ça ne va pas si bien ensemble que beaucoup de sociologues et beaucoup de militants aimeraient le dire. C'est plus compliqué que ça. Se changer soi-même, ça ne suffit pas forcément toujours pour changer le monde. C'est sans doute une des leçons qu'on a par la suite. Donc, bon, je ne sais pas si c'est ce petit point sur la consommation critique, je parle beaucoup trop. Je vais aussi faire assez rapidement ce troisième point, je veux juste dire quelques mots. C'est un article qui est consacré à l'importance du rapport à soins. Ouais. Donc juste pour vous inviter à prêter attention quand vous... mener la recherche sur les mouvements sociaux, sur ce rapport à soi qui me paraît vraiment fondamental aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le soi, c'est vraiment le rapport à soi. Ici, par exemple, une jeune écologiste me disait « Surtout, je ne veux pas participer à tout ça, je ne veux pas penser que des gens souffrent à cause de mes choix de consommation. » Ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette citation, c'est vraiment l'idée qu'on ne peut pas penser, on ne peut pas vivre avec l'idée que nous ayons un impact négatif. Et donc, c'est vraiment le rapport à soi qui motive l'engagement. Et on l'entend beaucoup, par exemple, très souvent, j'entends des gens me dire « Je sais que ça n'a pas beaucoup d'impact. Je sais que cet acte ne va pas changer le monde et que ce n'est pas en triant les déchets, ce n'est pas en faisant une petite campagne par-ci, par-là, qu'on va arrêter cet énorme problème écologique, mais en même temps, je ne peux pas faire autrement. Parce que la priorité, enfin, je le fais surtout parce que je dois être en cohérence avec moi-même. Je ne peux pas m'endormir le soir si je ne fais pas ça. » Et donc, j'avais prévu de développer tout ça. Et donc, évidemment, le rapport à soi, à travers la réflexivité, la cohérence et la responsabilité, qui est parfois problématique, c'est vraiment au centre de l'engagement, de beaucoup de formes d'engagement, en tout cas de cet alteractivisme. Ça implique un questionnement constant qui est assez compliqué parce qu'on se remet sans cesse en cause. Encore une fois ici, d'un côté, on se remet sans cesse en cause, ce qui est intéressant pour la subjectivité et la subjectivation, mais qui parfois ralentit l'action, au niveau individuel bien sûr. Et les militants me disent, bah oui, si sans cesse je me remets en cause et j'essaie toujours d'être plus cohérent, à la fin je ne fais rien. Celui qui est pleinement cohérent, c'est le type qui se retire comme un ermite hors du monde. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est être activistes dans le monde. Et donc, du coup, il y a cette cohérence qui rentre en tension avec beaucoup d'autres choses, et c'est ça, je pense, qui est vraiment intéressant. C'est un peu ça qui est un peu spécifique de ces alter-activistes qui ne sont pas dans les absolus et qui sont au contraire plongés dans plein de contradictions. C'est finalement ça qui les fait aussi avancer, qui leur permet de changer le monde, surtout de manière limitée, mais de le changer quand même sans certitude. Le rapport à soi, par exemple, dans Nuit debout, c'est un mouvement très fortement expressif. Et donc, ce que tout le monde a dit à l'époque, en 2016, c'est que Nuit debout, c'est un mouvement fantastique parce que tout le monde apprenait à parler en public. Ça, je pense que tous les politologues qui passaient là pendant quelques jours le disaient. Je pense que c'était surtout intéressant Nuit debout quand on restait un peu plus longtemps, c'était plutôt qu'on apprenait à écouter. On apprenait à ne pas parler trop longtemps. On apprenait à écouter les autres et savoir que je n'ai pas toute la vérité, qu'ensemble, c'est, voilà, c'est plus compliqué. Et donc, cette auto-limitation paraissait vraiment intéressante et passait par un rapport à soi qui était donc aussi très lié au rapport à l'autre. Et j'aimerais souligner ça dans ce point, le fait que quand on parle de subjectivation de rapport à soi, il ne faut pas retomber dans l'idée de sujet un peu hors du monde, pardon, à la Touraine un peu, quand même parfois, en disant que c'est un sujet qui n'est pas dans les réalités sociales et économiques ou que c'est un sujet qui ne serait pas avec les autres. Non. On voit que Martuccelli, par exemple, explique bien que pour cette éducation, il faut des supports, qui sont y compris des supports matériels, qu'il faut un état social, par exemple, c'est un support très utile pour permettre aux gens de s'émanciper au niveau individuel. Et je dirais aussi au niveau collectif dans les mouvements sociaux. On voit toujours que cette réflexion sur soi, sur ses pratiques, ne se fait pas seule. On peut le faire parce qu'il y a un groupe, parce qu'on est ensemble, et là, je pense que les espaces d'expérience sont fondamentaux pour tout cela. Et donc, il y a un rapport à soi et rapport aux autres qui est différent. Et mon espace favori dans Nuit debout Paris, c'était sans doute celui qui continue jusqu'à aujourd'hui, qui s'appelle Éduc-Pop debout, Éducation populaire debout. Et là, du coup, ce qu'il fallait, ce qu'il demandait, c'était un prénom et un thème qui te passionne, avec un thème qu'on retrouve dans tous ces mouvements-là, un rapport, une discussion de personne à personne. En gros, comme il disait, si tu es prof d'UNIF ou si tu es simplement quelqu'un de passionné par un thème, le statut ne compte pas. Ce qu'il faut, c'est venir l'expliquer et on en discute. Et cette idée de pas de statut, c'est vraiment fondamental dans beaucoup de ces mouvements. Dire, voilà, nier tous les statuts, le fait qu'on arrive non pas comme membre d'une organisation, c'est pas un problème en soi qu'on soit membre d'une organisation, mais simplement, quand on est dans cet espace d'expérience, on est une personne, et donc on a appris les choses avec une organisation, mais il n'y a pas de statut là-bas. Bon, je vais... Hop, c'est passé ça. Juste peut-être le slogan aussi, la simplicité volontaire, moins de liens, moins de bien, plus de liens. Justement, c'est lié à tout ça. Ça conduit à des rapports compliqués aux organisations, qui, je pense qu'il faut repenser plus en profondeur. On avait, il y a quelques années déjà, le livre No Logo de Naomi Klein qui s'appliquait aux marques. Je pense qu'il s'applique très bien aussi pour les alter-activistes, j'y vais y revenir, pas pour tous les mouvements. No Logo, c'est-à-dire que je veux m'encarter dans aucun parti, aucune organisation. Je défends l'autonomie de ma propre expérience, bien sûr contre la publicité, mais aussi contre les syndicats, les mouvements sociaux, les organisations de mouvements sociaux, de mouvements sociaux. Pas de bannière syndicale. On voit dans toutes les manifs, c'est encore marqué à la manifestation pour le climat il y a quelques semaines. Chacun a sa pancarte individuelle, plutôt que, il faut dire, on dit tous à peu près la même chose, mais à sa manière. Et donc c'est la pancarte individuelle qui compte bien plus. Et donc, on refuse de s'inféoder à une organisation pour prendre un terme militant. Notamment ici, je reviens à l'idée que l'expérience ne peut pas être déléguée. Et en même temps, cette individualisation nous conduit non pas à nier le collectif, mais à réinventer le collectif et à réinventer le commun. Notamment parce que cet activisme très individualisé, s'il n'est que individualisé, il y a évidemment beaucoup de soucis aussi pour la continuité. Autant il y a beaucoup d'atouts, et c'est fantastique, avec tous ces militants très individualisés, ils sont très créatifs, ils font plein de choses. Il y a quand même quelques défis aussi sur la continuité, sur l'aspect souvent très sporadique de l'engagement. Et là, je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de voir comment un activisme individualisé s'articule d'une autre manière avec des formes de collectifs, y compris les organisations. Et là, une fois qu'on a dit que ce sont des militants très individualisés, à partir de là, il faut sans doute repenser la place de l'organisation, mais pas la nier. Partout où j'ai pu voir les mouvements du type Occupy, mouvement des places, partout il y avait des organisations derrière. Par exemple, à Moscou, en Russie, il y a eu en 2002, qui s'appelait Occupy Abba et qui venait d'une série de manifestations. Ces manifestations n'ont eu lieu que parce que des ONG avaient demandé l'autorisation de manifester et l'avaient organisé. Nuit debout, à Paris, a occupé un espace parce qu'il y avait, notamment, ils ont pu occuper l'espace parce que le DAL l'occupait déjà, droit au logement. Et donc, ce n'est pas qu'il n'y a pas d'organisation. Occupy Wall Street, les quelques réunions auxquelles j'ai pu assister, se tenaient dans des locaux des syndicats, avec des syndicalistes qui défendaient les gens d'Occupy sans se mettre en avant parce qu'ils savaient que c'était autre chose, ce n'était pas leur mouvement, mais ils le soutenaient. Et donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas nier le rôle de ces organisations, mais le repenser autrement, enfin c'est une reconfiguration qui me semble vraiment intéressante. Bon, le temps passe, j'arrive à peine au troisième point. Bon, je pense qu'il n'y a rien de très nouveau là-dessus, mais bon, quoi, tout ça nous conduit donc évidemment à repenser la démocratie, encore une fois, rien de neuf, parce que la démocratie, c'est un concept qui se repense sans cesse, sans arrêt, avec beaucoup de boucles. Hein. C'est, les zapatistes appellent leurs espaces, non, la réunion des villages, les escargots, caracoles. Et donc, c'est un peu cette pensée aussi dans les mouvements sociaux. C'est toujours qu'on revient sur les mêmes termes, on revient sur les mêmes pensées. Par exemple, on reprend beaucoup aujourd'hui de Bakounine et d'autres auteurs qui reviennent un peu plus. En même temps, on les reprend à l'aune d'aujourd'hui, donc pas de la même manière, on a quand même avancé. Et donc, c'est un peu ça aussi pour la démocratie. C'est un concept qui, tant qu'il vit, doit être sans cesse réinventé. Il se fait que les mouvements récents ont aussi beaucoup réinventé la démocratie. Dans tous ces mouvements, ce qui m'a marqué, et donc là, je reprends notamment un article que j'avais écrit avec Malice Glacius, la démocratie, c'était une revendication des pratiques et je dirais avant tout une exigence personnelle, pour appliquer tout ce que je viens de dire. Et donc, ce qu'on voit, ce qu'on lit un peu plus dans les journaux, c'est que pour ces mouvements, la démocratie, c'était d'abord questionner le consensus de la démocratie de marché, dire que les élections, ça ne suffit pas pour faire une démocratie, pour un peu les activistes et d'autres, pour les autonomes vont dire que les élections sont toujours, c'est toujours un peu l'arnaque, ce qui n'est pas complètement faux, mais ben, bon, il n'y a pas que ça. On parle de démocratie vide, de démocratie sans choix. On peut voter, mais tous les partis proposent la même chose. Ce sont les slogans ici plutôt 2011, ça a un peu changé depuis, j'y reviendrai. On parle du pouvoir du 1% et surtout de cette collusion entre les élites économiques, politiques et médiatiques, qui est vraiment le facteur, peut-être avec les lobbies, qui a vraiment marqué les mouvements de cette génération, partout. Au Mexique, ils ont créé un président à partir des médias dominants, qui appartenaient donc au grand consortium économique. On voit la même chose avec Globo au Brésil, qui a eu un grand rôle dans la destitution de la présidente Dilma Rousseff. On voit cette collusion, mais regardez encore une fois en France, à qui appartiennent les médias. On voit comment en Islande, un frère est ministre, l'autre frère est directeur d'une banque. Et donc là, vraiment, la collusion était partout, et c'est ce qu'on voit encore dans les mouvements aujourd'hui, en Tunisie, en Égypte, un peu partout. Et donc clairement, un aspect important, revendication de la démocratie par rapport aux élus politiques. Simplement, dans la plupart de ces mouvements, ça, c'était 5% de leur temps. Le principal, comme je l'ai dit, c'est la démocratie, ce sont avant tout des pratiques. Je vais te parler de tout ça, c'est simplement pour l'appliquer à un thème en particulier. Donc, la démocratie locale dans les assemblées, les places, les quartiers, participation directe, sans représentation, l'idée de mettre nos valeurs en pratique. Et donc, la démocratie en action plutôt qu'au vote, c'est peut-être sans doute l'un des grands clivages qu'il y a eu à Nuit debout, comme dans la plupart des mouvements des places, mais sans doute là, il y a un apprentissage qui n'est pas toujours cumulatif. Il se fait qu'en France, j'aimerais souligner juste un petit point ici, il faut absolument qu'on arrive à mieux intégrer, on parlait de Giddens tout à l'heure, la double herméneutique. Évidemment, pour beaucoup de ces acteurs de mouvements sociaux d'aujourd'hui, ils sont très réflexifs, et donc ça veut dire aussi que, d'une part, ils lisent directement ou indirectement une série de travaux en sciences sociales, et d'autre part, c'est évident aussi aujourd'hui qu'une partie, souvent conséquente des militants, est aussi sociologue, anthropologue, politologue, d'autres choses. Je serais intéressé à savoir ce qu'il en est peut-être pour des mouvements ici en France. Je me rappelle une réunion au Chiapas où on séparait les Mexicains et les internationaux. Dans les internationaux, on devait être trois quarts étaient sociologues, anthropologues, politologues. Dans Nuit debout, il se fait qu'il y avait notamment une grande série de politologues un peu liés à ce mouvement intéressant en France, le GIS et tout ça, sur la démocratie participative. Et donc, eux, ils pensaient que, évidemment, tous les mouvements des places, c'était le vote. Ce qu'il fallait, la priorité, c'est de se réunir pendant des semaines et des semaines pour décider comment voter ensemble. Et donc, ils ont fait des réunions infinies pour mettre en œuvre, pour décider des règles pour voter. Et donc, c'était une partie de la place. Et donc, ça, c'est une partie de la démocratie, sans doute. Voilà, on décide, on parle pendant très très longtemps. Mais l'essentiel de Nuit debout et de ces mouvements des places, c'est plutôt une démocratie en action. C'est-à-dire mettre les valeurs en pratique. Et il ne faut pas un vote, par exemple, si tu veux faire quelque chose, dans cette partie de Nuit debout pour ces acteurs, si tu veux faire quelque chose, ben, vas-y, fais-le et trouve quelques personnes pour le faire avec toi. Et tu le fais, tu n'as pas besoin du vote d'une assemblée ou de qui que ce soit pour le faire. Et donc on retrouve aussi ici, dans cette démocratie pratique, bien sûr, toute l'importance de la vie quotidienne, avec peut-être le paradoxe. J'ai beaucoup aimé le livre, aussi pareil, il y a quelques années déjà, de Colin Crouch, qui s'appelait « La post-démocratie ». Je ne sais pas si il circule encore en français. Bref, Colin Crouch dit que depuis les années 70, on est dans un grand déclin de la démocratie. Parce qu'entre parenthèses, tout le monde trouve toujours que le monde était beaucoup plus démocratique et que les mouvements étaient plus fantastiques quand il avait 20 ans. Et donc c'est à peu près le cas aussi pour Colin Cranch, qui avait à peu près 20 ans dans les années 70, au début des années 70. Et donc il dit, là on était dans la grande démocratie, et depuis lors il y a un déclin parce qu'on peut toujours voter, mais la démocratie substantielle est de moins en moins importante. C'est pas faux, mais en même temps je pense que là, lui, ce qu'il sous-estime, c'est qu'aujourd'hui la démocratie s'étend dans bien plus de sphères de la vie. Dans les années 70, on parlait aussi, bien sûr, il y a une série, je sais qu'il y a la contre-culture, des mouvements de consommation critique, mais maintenant, on parle bien plus de tout ça, de d'intégrer la manière dont on mange, la manière dont on consomme, comme un élément du vivre ensemble, de la démocratie, de nos choix. Et donc, il y a en même temps une réduction de la démocratie dans certaines sphères et des vrais problèmes de lobby, et en même temps, une extension de la démocratie entendue comme cela. Cela dit, donc, si on prend la démocratie comme une exigence et comme des pratiques, ce qui m'a beaucoup surpris dans les entretiens avec différents militants un peu partout, c'est que pour eux, dans les mouvements des places, surtout au début des années 2000, la première moitié des années 2010, la démocratie c'était avant tout une exigence personnelle. Ce qu'ils me disaient, c'est par exemple ici, la démocratie c'est une façon de vivre, c'est vivre avec les autres personnes et les prendre pour ce qu'elles sont. C'est l'idée que, bon, Rancière ici le disait très bien bien avant, ce sont des pratiques des gens orientés vers le présupposé de l'égalité de tous. Donc l'idée ici, c'est que la démocratie, c'est avant tout une exigence que j'ai par rapport à moi. C'est moi-même qui dois intégrer la démocratie et vivre avec les autres en fonction de cela. Et donc, je vais peut-être passer tout cela, mais donc l'idée, ce qui moi m'intéressait là-dedans, c'est justement de voir ces démocraties comme aussi quelque chose qui est en partie intérieur, qui est en partie lié à l'État, mais pas seulement, et qui nous permet donc de repenser tout cela. Et donc on a un panorama qui avait l'air assez optimiste encore il y a quelques années, d'un renouveau de la citoyenneté, d'une réappropriation de la démocratie, d'une redéfinition de la démocratie, une démocratie qui, bien sûr, ne se limite pas à la politique représentative, qui s'ancre notamment dans le quotidien, qui exige des relations différentes à l'État et aux politiques, qui s'ancre qui a des dimensions pratiques, des dimensions conflictuelles, l'idée de défendre la démocratie face aux lobbies, donc là, il y a notamment ici le ZLN, c'est bien sûr un grand mouvement au Chiapas, mais c'est aussi un petit mouvement à Bruxelles qui lutte contre les lobbies, qui s'appelle l'Ensemble zoologique de libération de la nature, et donc qui a aussi une déclaration, c'est pas la déclaration de la forêt, de la jungle, le lac Randon, c'est ça en français, mais qui a une déclaration de la forêt de Soigny, enfin bref, il copie un peu les apatistes contre les lobbies de Bruxelles, ce qui paraît bien inutile. Et donc, il y a tout cet aspect de renouveau de la citoyenneté qui est très présent aujourd'hui et ça continue, ça, c'est loin d'être fini. En même temps, j'ai sans doute oublié un slide ici, on a quand même eu quelques soucis avec tous ces mouvements et j'arrive à la dernière partie, un peu, je me suis laissé un peu de temps pour ça. En même temps, on voit tout l'élan qu'il y a eu en 2011, 2012, 2013 et jusqu'à aujourd'hui, il ne se passe pas deux mois sans que dans un pays, on voit des mouvements citoyens massifs du type mouvement post-2011. Des manifestations, des occupations de place, partout. Des mouvements, simplement, on lit pas ça dans la presse tous les jours. Mais en Afrique, par exemple, c'est incroyable. Depuis 2008-2009, même un peu avant, il y en a marre, du ballet, enfin, il y a plein de mouvements fantastiques. Un mouvement très important en Érythrée, où il y a une dictature sanguinaire, qui fait notamment qu'il y ait quelques migrants qui arrivent en Europe, où par exemple le service militaire est de 10 ans, si je me souviens bien, enfin, des choses terribles. Et on voit comment des jeunes risquent leur vie, des citoyens font tout ça. On parlait de la Roumanie, où il y a des mouvements très importants chaque année à peu près. Il y a eu des centaines de milliers de personnes le 10 août, si je ne me trompe pas. Ça n'arrête pas. Il y a des mouvements sans arrêt, mouvements progressistes. En même temps, on a quand même un petit souci, comme militants, mais aussi comme sociologues des mouvements sociaux. Et là, je me permettrai de faire de manière un peu plus personnelle. C'est évident que quand j'étais dans les rues de Porto Alegre ou Gênes en 2001, clairement, je pensais que 15 ans plus tard, le monde serait bien meilleur. Bien sûr, j'étais un jeune sociologue, je savais que ça n'allait pas aller super vite, que c'était un peu plus compliqué que ce que disaient certains militants. Mais j'avoue, j'étais sans doute un peu naïf, mais que jamais je n'aurais pensé que 15 ans plus tard, en 2016, on aurait l'élection de Trump, l'élection de Modi en Inde, le tournant dictatorial en Turquie, le non à la paix en Colombie, le référendum contre le traité de paix en Colombie, et plein d'autres choses, en 2016, 15 ans plus tard. Il y a quand même un petit problème. Et donc, un problème pour les militants. Je dirais aussi, c'est tout un autre exposé que je fais d'habitude quand je coordonne, quand je suis entre amis sociologues des mouvements sociaux. On s'est quand même un peu trompé, les sociologues des mouvements sociaux. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que, est-ce qu'on n'a pas un peu idéalisé ces mouvements? Est-ce qu'on n'a pas contribué à donner trop d'importance, et je vais mettre tout à fait là-dedans, aux espaces d'expérience, aux mouvements sociaux? Quelle est la capacité d'agir de ces mouvements? Et Est-ce qu'on n'a pas donné trop d'importance à Internet, à ces réseaux dans lesquels on a tellement d'espoir? Est-ce qu'on n'a pas donné trop d'importance aux forums sociaux? Est-ce qu'on n'a pas raté quelque chose? Certainement. Au point, je pense qu'il faut, comme militant sans doute, mais comme sociologue, je prendrai la phrase de Touraine. Touraine dit que les mouvements sociaux sont au cœur de la production de la société. Est-ce que c'est encore vrai après 2015-2016? On a quand même eu peu d'années, il y a 68 bien sûr, mais depuis peu d'années, comme 2011-2013, et centaines de milliers de personnes dans les rues un peu partout dans le monde. Tout ça pour qu'en 2016, on arrive à un panorama assez différent. Bien sûr, non seulement je reste tourénien, mais en plus, j'étais jusqu'à il y a quelques mois, le président de la section mouvements sociaux de l'Association internationale de sociologie, et donc je ne pouvais pas dire que les mouvements sociaux, c'est fini. C'est pas possible. Je pense simplement que peut-être une des erreurs que nous avons faites collectivement, ou plutôt moins, pas tout le monde, mais beaucoup de sociologues et mouvements sociaux, c'est qu'on a considéré trop longtemps que les mouvements sociaux, c'était les gens gentils qu'on aimait bien, qui étaient à peu près comme nous. Et moi-même, j'aime beaucoup faire ça, et il faut continuer à le faire. Et je répète, aujourd'hui, tous les deux mois, il y a des nouveaux mouvements citoyens qui surgissent dans un pays. Tous les deux mois, ça n'arrête pas. Là, il n'y a pas longtemps, j'étais en jury de thèse sur l'Indonésie. Il y a plein de trucs qui se passent là-bas. J'avais aucune idée de tout ça. Bon, vraiment, il se passe beaucoup de choses. Donc les mouvements progressistes n'ont pas disparu. Mais en même temps, en face, je dirais au-dessus et à côté, il faut admettre, enfin, je pense en tout cas, que ces mouvements étaient plus efficaces et bien plus puissants. Et donc, c'est un petit article en espagnol, malheureusement, je ne sais pas si je trouve une petite place pour ça en France. L'argument, simplement, je n'ai pas prévu trop de slides là-dessus, mais l'argument que j'aimerais développer, c'est de dire que, oui, les mouvements sociaux produisent la société aujourd'hui, mais, bon, c'est filmé, il ne faut pas dire ça comme ça, mais pas uniquement les gentils. En tout cas, pas seulement du côté progressiste. Il faut voir à quel point, par exemple, ça se voit beaucoup plus clairement peut-être maintenant qu'il y a 5 ou 6 ans. Le mouvement, et si on considérait le capitalisme global comme un mouvement social, comme il y a une dimension de mouvement social. D'excellent article, il y a quelques temps, j'étais à Hong Kong avec un Chris Chen. Il y a un article brillant, il montre comment les Européens, la France notamment, mais aussi l'Allemagne et d'autres, utilisent les ambassades en Chine pour aller contre les lois sociales chinoises. Et donc c'est incroyable, comment? Alors que nous, Européens, on aurait quand même tout intérêt à ce qu'il y ait de lois sociales chinoises, histoire que les salaires montent un peu pour freiner un peu la concurrence de la Chine. Non, non. Les consulats sont occupés à appuyer les transnationales pour contre les lois sociales chinoises. On voit, je pense, pas trop de sociologie, mais je pense qu'on a une émission très importante en France, Cache Investigation, à chaque fois on est atterré pour voir le pouvoir des lobbies. Et si on appliquait toutes nos théories des mouvements sociaux, la diffusion, les réseaux d'expertise, l'influence, la formation des militants. Alors qu'on parle par exemple de mouvements que j'aime beaucoup, j'étais en 2013, j'étais au Brésil quand il y a eu ces manifestations, là en juin, j'étais plutôt en juillet, donc j'ai eu l'occasion d'interroger beaucoup de gens et des jeunes fantastiques, qui étaient tous progressistes. Et quelques temps plus tard, je discute avec un sociologue, un très bon sociologue de Porto Alegre, et je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment ça se fait que nous, les sociologues, on n'a pas vu que dans les rues, il y avait aussi des mouvements de droite? Il me dit, oui, en fait, moi, je distribuais des questionnaires à ce moment-là, en 2013, à Porto Alegre. Et quand je voyais des gens de droite, je ne donnais pas le questionnaire parce que je pensais qu'ils ne faisaient pas partie du mouvement. On était aveuglés à tout ça. On s'est dit, c'est un autre mouvement. D'où l'intérêt, je pense, de distinguer différentes cultures activistes. Mais donc, bref, tous ces mouvements de droite ont considérablement augmenté, eux. On voit comment il y a ce capitalisme organisé au niveau global. On a eu le Forum social mondial, le Forum économique mondial continue. On voit, par exemple, le Brésil, c'est un cas passionnant. Il y a un réseau financé par les frères Koch aux États-Unis qui s'appelle Atlas Network. Ce réseau finance massivement, un peu partout dans le monde, y compris en France, des think tanks néolibéraux. Il se fait que en 2012-2013, ils ont lancé un réseau étudiant pour la liberté, en portugais, je ne parle pas portugais, mais enfin, un truc Estudante para la Libertad, ou un truc comme ça. Bref, ils ont lancé ce réseau. Sur le site de ce réseau, ils expliquent qu'entre 2013 et 2015, en 2 ans, ils ont mené des formations dans plus de 350 institutions d'éducation supérieure au Brésil. Ils ont formé des centaines, comme ils les appellent, de jeunes leaders. Et donc ça vient des États-Unis, mis au Brésil, stratégie vraiment de penser à long terme, de former des jeunes leaders. Il se fait que parmi les leaders de Estudiantes para la Libertad, étudiants pour la liberté, liberté c'est souvent le mot-clé, dans tous ces... ils ont créé, et donc ils n'ont pas voulu faire des manifestations directement eux-mêmes, parce que ça aurait été vu comme les Américains financent les manifestations au Brésil, ils ont créé un mouvement qui s'appelle le mouvement Brésil Libre. Parce que juste avant, il y avait un mouvement pour les transports gratuits, un mouvement pour les transports libres, qui s'appelait à peu près. Et donc, ils ont créé le mouvement Brésil Libre. Ce mouvement, c'était le mouvement essentiel qui a réussi, via Internet, en mobilisant les médias, à mobiliser les gens pour le coup d'État qui a eu lieu au Brésil en 2016. 2016, c'est ça, contre Dilma. Et donc, on voit qu'il y a une structure transnationale, des acteurs locaux, mobilisation des ressources, des acteurs là. Et pourquoi n'applique-t-on pas les théories des mouvements sociaux aussi là-bas? Et je pense que oui, les mouvements du dessus, comme on dirait peut-être, hein, si on prend le mouvement du dessous, comme disaient les zapatistes, le mouvement du capitalisme global, il y a eu quelques tentatives. Hein, Leslie Sclair, notamment, a fait quelques textes là-dessus à la fin des années 90 et des années 2000. Néolibéralisme, c'est un mouvement global. Et puis, il faut étudier aussi les mouvements d'à côté, d'en face. On voit comment ces mouvements conservateurs ont été trop souvent étudiés séparément. Donc il y a les spécialistes des mouvements sociaux, et puis là-dedans, il y a quelques-uns qui travaillent parfois sur des mouvements un peu bizarres, mais la plupart pas. Et tout d'un coup, maintenant, enfin, et c'est bienvenu, des gens comme David Paternotte, Catherine Blee, je pense que Michel Bevorka en France l'avait fait un peu plus, hein, il a en tout cas proposé d'appliquer les théories des mouvements sociaux aux mouvements conservateurs aussi. Et donc, et je pense justement qu'il faut, les mouvements sociaux aujourd'hui sont très importants, mais il faut aussi étudier, ils produisent la société, mais pas, il faut aussi qu'on étudie les mouvements à la fois qui promeuvent le capitalisme, qui contrôlent les médias notamment, et les mouvements conservateurs, avec notamment en partie les mêmes techniques. Par exemple, je dis toujours, et j'insiste beaucoup là-dessus, et c'est vrai, quand on passe quelque temps dans un mouvement, dans un espace d'expérience, Notre-Dame-des-Landes, Nuit debout, et ça c'est un truc que Macron a un peu sous-estimé. Notre-Dame-des-Landes, ce n'était pas juste un territoire, c'était une expérience partagée par beaucoup d'acteurs. Soit parce qu'ils y ont été même quelques jours, et ça résonne profondément en eux, ils l'ont gardé en eux, soit parce qu'ils en ont entendu parler, et cette expérience, sans y aller, ça résonne avec ce qu'ils vivent. Et donc, Nuit debout, c'est une expérience qui transforme les gens, même si on y va très peu de temps. Le mouvement Notre-Dame-des-Landes, Nuit debout, c'est un mouvement qui n'est pas éternel, mais qui a un impact à long terme sur les acteurs. Simplement, il y a un petit problème. C'est que si ça marche pour le mouvement progressiste, ça marche aussi pour les autres mouvements. On voit à quel point, par exemple, il y a des études qui montrent comment le Brexit, il y a eu immédiatement après le Brexit et aussi 3 ou 4 mois plus tard, une augmentation très forte des actes racistes en Angleterre. On voit comment Donald Trump a aussi transformé ses mouvements. On voit comment la participation à ce type de marche raciste, xénophobe, a un impact sur la subjectivité des individus. Et donc, je pense qu'il faut aussi, comme je parlais de subjectivité, de subjectivation dans ces mouvements, j'ai du mal à dire espace d'expérience, mais enfin, il faut quand même comprendre comment cette expérience a un impact aussi sur ces acteurs et appliquer, je crois, une partie des outils pour penser les mouvements sociaux aussi à ces acteurs-là. Et oui, là, les mouvements sociaux d'aujourd'hui continuent de produire la société. Bon, c'est pas prévu, mais bon.
Ça fait une heure.
Oui, je vois ça, j'ai mon petit chronomètre. Mais j'accorde quelques slides, en effet, et pas mal de débats. Et donc, voilà, tout ça pour arriver à mon cinquième et dernier point, mais c'est un peu une arnaque. Hein. Souvent, on met le cinquième point comme si c'était presque fini, mais en fait, c'est le plus long. Et donc, voilà, il faut toujours se méfier des sociologues quand ils ont le micro. Et donc, ou quand ils ont le pouvoir, d'ailleurs. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, et j'essaie de travailler là-dessus, c'est d'accord à l'état un peu débauche, hein. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé, à la fois du côté des conservateurs et de, comment est-ce qu'on appelle, mouvement pour le capitalisme global, mais aussi du côté des progressistes, on n'est plus, ces mouvements des places, ces mouvements de ces espaces d'expérience sont encore très importants, sont encore actuels, et j'aimerais vraiment éviter un mouvement de balancier. C'est pas parce qu'on a ignoré très longtemps les mouvements conservateurs et les mouvements du dessus, capitalistes globaux, je sais pas comment il faut les appeler, que maintenant il faut faire l'inverse et ignorer l'importance de ce qui se passe aujourd'hui du côté progressiste. Il y a vraiment une quantité impressionnante d'initiatives partout, sur l'écologie, sur la consommation critique, sur la démocratie. Il se passe plein de choses partout, il suffit de... Enfin, je sais pas, on se balade dans n'importe quel quartier, on le voit. Des mouvements qui ont un impact sur le long terme. Occupy Wall Street, si on va à Brooklyn aujourd'hui, on voit plein d'impacts de ce mouvement qui est quand même déjà un peu ancien maintenant. Enfin bref, il y a des mouvements de tous les côtés, et en même temps, on ne peut pas tout à fait échapper au constat qu'il y a aussi eu quelques soucis, que ça n'a pas été exactement comme le pensaient les militants, comme le pensaient d'ailleurs les sociologues. Les mouvements de 2011 n'ont pas réussi à changer exactement le monde comme ils voulaient. Le cas peut-être le plus tragique, c'est l'Égypte, hein, sans doute. Voilà, un mouvement fantastique en 2011 qui vit aujourd'hui une dictature plus féroce que ce qu'il y avait il y a quelques années. Et donc, j'aimerais aussi répéter, avant de m'engager là-dedans, j'aimerais redire que penser que le changement social passe d'abord, avant tout, ou presque exclusivement, par le changement du pouvoir politique, ça ne me paraît pas juste, c'est une arnaque, ça ne marche pas comme ça, c'est pas quand on prend le pouvoir qu'on change le monde comme ça, tel quel, non? En même temps, et même si John Holloway et quelques autres ne seront pas très contents, je pense qu'on n'a pas empêché aussi de se poser la question de quelles sont les relations de ces mouvements des alter-activistes avec le pouvoir politique, avec les partis, etc. Il faut quand même, voilà, on peut se poser cette question-là. Et je dirais qu'il y a aujourd'hui, il faut que je me souvienne, je crois qu'il y a quatre points, quatre types un peu idéaux de relations. Il faut toujours faire des catégories quand on est sociologue, donc voilà. Quatre relations au pouvoir après ce tournant 2015-2016 qui n'est pas égal à tous les pays. 2016, c'est un peu c'est l'arrivée, enfin, ben, la deuxième vague, mais enfin, de mouvement des places en France avec Nuit Debout. Alors que pour beaucoup d'autres pays, c'était déjà bien engagé dans le tournant autoritaire. Enfin, d'abord, ce qui fait aucun doute qu'il ne faut pas oublier, c'est la relation peut-être la plus forte aujourd'hui entre le pouvoir politique et les alter-activistes, c'est la répression et la violence. Cette image vient d'activistes du mouvement de Gezi Park. Ce qui s'est passé à Gezi, comme ce qui s'est passé en une moindre mesure sur la place de la République ou dans les mouvements de Rio en 2013, c'est aussi une rencontre entre différentes cultures activistes, en l'occurrence des alter-activistes qui ont rencontré là des Kurdes, un peu comme les jeunes parisiens ont rencontré et échangé avec des jeunes populaires des banlieues, un peu comme, ou tout à fait comme à Rio. On a vu comment la répression des favelas était discutée dans les places au centre-ville, enfin bref. Donc, dans ce mouvement de Gezi, les jeunes turcs rencontrent les Kurdes et ils nouent des amitiés, très important au niveau personnel, encore une fois, des alliances et ils mènent des luttes communes. Quelques mois plus tard, des gens qui étaient à Gezi Park s'en vont à un festival culturel avec une forte portée politique dans le Kurdistan. J'ai oublié le nom de la ville, j'oublie toujours le nom. Et donc on voit ces militants, alter-activistes, je pense qu'on peut dire, qui allaient là-bas pour danser. Donc ils avaient prévu de faire une petite danse dans ce village. Quelques minutes après cette photo, une bombe explose et la moitié des personnes qui sont sur cette photo sont décédées. C'est un cas qui paraît un petit peu, je dirais même pas extrême. Ça, c'est sans doute la réalité dominante du rapport des alter-activistes au pouvoir. Je dis souvent aux sociologues qui doutent parfois que les mouvements sociaux alter-activistes ont un impact ou aux militants, qu'il semble que ceux qui sont au pouvoir n'ont aucun doute que ces mouvements ont un impact parce que la répression est féroce sur les alter-activistes. C'est le cas un peu partout. Et donc, ce qui paraît anodin, une danse dans le Kurdistan, c'est on envoie des bombes. La répression de l'État est forte partout. Ici, Marielle Franco, j'espère que vous avez tous entendu parler de Marielle Franco, qui est cette leader politique, députée locale dans la ville de Rio, militante LGBT, militante des femmes, militante des Noirs au Brésil, qui a été assassinée, bien qu'elle était conseillère municipale. Ça veut dire que si elle a été tuée, et qui était bien sûr aussi sociologue, elle fait une très bonne thèse sur l'activisme urbain à Rio de Janeiro. Et donc, si elle a été tuée, ça veut dire que beaucoup d'autres sont tués en silence. La répression d'État est très importante. On parle beaucoup au Mexique, notamment d'Ayotzinapa, dont on vient malheureusement de célébrer le 4e anniversaire sans savoir exactement ce qui était arrivé à ces 43 étudiants. On ne parle jamais, malheureusement, alors que c'est presque le même symbole qu'Ayotzinapa d'ailleurs, de la place de Rabat au Caire. J'espère que vous avez entendu parler de ça. Le 14 août 2013, des dizaines de milliers de manifestants étaient réunis sur la place de Rabat au Caire. Et Mohamed, non, pas Mohamed, El-Sisi, comment s'appelle-t-il encore, le dictateur égyptien Pardon, El-Sisi, mais j'ai oublié son prénom, en fait, ces gens-là n'ont peut-être pas forcément de prénom. Enfin, si. Mais bref, ce jour-là, Human Rights Watch, qui est quand même connue pour être sérieuse, a estimé qu'il y avait au minimum plus d'un millier de morts parce que l'armée est arrivée. À 6h du matin, ils ont juste tiré partout, il y a des snipers partout, ils ont tiré dans la foule qui était juste assemblée en train de dormir. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de problème là-bas. Et donc, il se fait qu'en plus, il n'est quand même pas bête, El-Sisi, il venait de faire son coup d'État quelques mois avant. Et donc, le même mois, ou à peu près, il a acheté deux frégates à la France, ce qui a fait que François Hollande a été après en grande pompe remercier El-Sisi et dire que c'est un régime très utile parce qu'il lutte contre le terrorisme. Comme il y a une solidarité en dessous pour dénoncer la violence, donc on voit comment les militants dénoncent ce qui se passe à Ayotzinapa, on voit comment tout ça se passe là-bas, il y a malheureusement, ils sont plus forts pour l'instant, une solidarité au-dessus, où les chefs d'État, clairement, s'allient. Le président mexicain, encore actuel, Enrique Peña Nieto, était l'invité d'honneur le 14 juillet 2015, je crois, quelque temps après la disparition des 43 étudiants. l'invité d'honneur le 14 juillet de François Hollande. François Hollande a été célébré le dictateur égyptien El-Sisi, enfin bref. Ankara, pareil, c'était Ankara, une manifestation pour la paix, et il y a des bombes qui ont explosé. Simplement, ce qui me passionne moins, c'est la sociologie globale, comme vous l'avez peut-être compris, et les éléments qu'on voit parfois un peu disparates comme ça, une fois qu'on les réunit, ça fait sens, et c'est quelque chose de systématique aujourd'hui. Cette répression, ce ne sont pas des cas isolés. Le rapport de Human Rights Watch sur la place Rabat s'appelle « Tout s'est passé comme prévu ». C'est-à-dire, ça a été systématiquement planifié, ce massacre d'un millier de personnes documentées, il y en a probablement bien plus. Les frères musulmans parlent de 3 à 4 000 morts, c'est surtout entre les deux. Bref, la répression de l'État, la violence. Aujourd'hui, chaque semaine, pratiquement, des militants écologistes sont tués à travers le monde. On parle au Mexique, on parle de juvénicide, tellement de jeunes meurent aujourd'hui. On voit en Colombie combien de militants sont tués dans un soi-disant processus de paix actuellement. Sans parler de l'assassinat des journalistes, 9 morts, 9 journalistes tués au Mexique cette année, et des chercheurs. Pendant, sur les 4 ans où j'ai présidé le comité 47 de la Société internationale de sociologie, il y a eu 7 ou 8 collègues qui ont été assassinés, dont Marielle Franco, Giulio Regini, doctorant à Cambridge, un Italien, tué par le régime égyptien, et bien d'autres. Donc si ceux-là sont tués, combien d'activistes ont été tués ? Et puis d'autres aussi, même en France, ont été emprisonnés, etc. Et la France n'est pas si loin, et je dirais que là, il y a en même temps une répression plus forte. Enfin, j'ai aujourd'hui rajouté le nombre de grenades qui ont été utilisées à Notre-Dame-des-Landes. Quand même, il faut dire, pour un aéroport, ils avaient déjà renoncé à l'aéroport. Et donc, ce qu'ils attaquaient, c'était la lutte contre son monde. Et c'est quand même une disproportion. Quelques personnes, avec combien ça coûtait ces grenades et quel déploiement de gendarmes. Donc là, qu'est-ce qui est réprimé finalement? Et la répression est vraiment plus forte aujourd'hui, et vraiment moins, sans doute, j'étais naïf, mais il y a 10 ou 15 ans, je pensais que cette répression n'était plus possible, parce que je pensais qu'il y avait une solidarité internationale, qu'il y avait une société civile globale, qu'il y avait les droits de l'homme, et que ça ne se passait pas comme ça. Aujourd'hui, la répression se fait dans bien des pays impunément. Elle s'ajoute à un autre, peut-être pour le débat, un autre changement, à mon avis, le fait qu'aujourd'hui, la confrontation avec les acteurs d'extrême droite est plus directe. Un petit exemple là-bas en bas, pour ne pas être totalement délocalisé. En bas, c'est quand quelques étudiants sont réunis pour occuper l'amphithéâtre de Montpellier. Et ce que vous voyez là-bas, comme il se doit, c'est un professeur de droit avec son bâton qui a molesté et battu les étudiants à Montpellier. Et donc, pardon ?
Il y a eu la même chose ici, sauf qu'ils ne sont pas passés à l'action, mais le voyant de droit a appelé les étudiants à venir dégager l'amphithéâtre.
Et donc, c'est un peu plus fort peut-être quand même, ils ont tabassé quelques étudiants. Et... En plus, il y a aussi, à Paris par exemple, devant la commune de Tolbiac, il y a eu plusieurs fois des gens d'extrême droite qui sont allés, Génération Identitaire, etc. en France. Ce n'est pas un détail. Encore, nous sommes relativement... c'est moins fort ici. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de replacer tout ça dans un contexte global. En Inde, j'ai eu l'occasion d'être professeur à Pune, en Inde. Et là, les étudiants me racontent que ce qu'ils faisaient, c'était quand j'étais en 2016, il me disait 2-3 ans auparavant, avant que Moody n'arrive au pouvoir, ils organisaient régulièrement des clubs de cinéma, des actions, des conférences progressistes. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Dès qu'ils font quelque chose, il y a des étudiants nationalistes qui arrivent avec des bâtons et ils font en sorte que rien ne se fait. Un étudiant de GNU, la principale université, un sociologue, on est assez honoré d'être sociologue, de la GNU, a dit que la guerre face au Cachemire, ce n'était pas forcément une cause nationale. Ce jeune sociologue étudiant a été emprisonné, il a été traité de tous les noms. Plusieurs de mes collègues sociologues de mon comité de recherche sur la Société internationale de sociologie indienne ont été menacés de mort. Aujourd'hui, je devais retourner à Pune, la bourse a été coupée parce qu'il se fait que le mari de cette professeure a rendu un prix. C'est un artiste qui a rendu un des prix qu'il avait reçus pour dénoncer le nationalisme en Inde qui détruit les arts, qui détruit la créativité des artistes. Et du coup, ces programmes sont annulés. Donc vraiment là, on voit une confrontation très forte entre nationalistes et autres, une polarisation de plus en plus forte. Au Brésil, encore une fois, très intéressant. Comment en 2015, des mouvements radicaux se dressent? On voit que le candidat qui a le plus de voix, non, je ne dirais pas un favori, mais qui a le plus de voix aujourd'hui dans les sondages, Bolsonaro est un militant d'extrême droite, Trump c'est presque un light par rapport à lui. On voit comment les gender theories sont remis en cause. Comment on dit qu'un mouvement très intéressant au Brésil s'appelle « Éducation sans politique », un mouvement de droite, qui estime que tout ce qui est gender theory et qui estime que les professeurs sont tous de gauche et donc il faut qu'ils arrêtent de parler politique, éducation, civisme. Et donc, école sans politique, c'est évidemment un projet très politique au Brésil. Et donc voilà, on voit un peu partout, c'est peut-être un changement par rapport au pouvoir, une polarisation, une confrontation plus directe avec des mouvements d'extrême droite. Un autre changement, je dirais, deuxième aspect, c'est qu'il y a évidemment une forte réflexivité individuelle et collective par rapport au mouvement de 2011. Limite, c'est un peu fort peut-être, mais au défi sans doute des mouvements de 2011, et force est de constater qu'ils n'ont pas réussi à changer le monde exactement comme ils voulaient. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu d'impact. Mais quel est l'impact du mouvement de Gezi quand, juste après, le gouvernement nationaliste autoritaire gagne 3 référendums? Comment est-ce qu'on est quand même passé aux États-Unis de Occupy à Donald Trump? Ça fait quand même une petite différence de perspective. Même si Obama, ce n'était pas l'idéal, mais quand même Trump, c'est encore autre chose. Au Mexique, je le disais tout à l'heure, on a fait un livre récemment, tout ça est en ligne, que j'ai coordonné, Le Mexique en mouvement. Il y a une espèce de panorama où on voit bien que les zapatistes, c'est sans doute l'expérience la plus profonde, mais c'est une de très nombreuses expériences autonomes au Mexique. Des gens fantastiques, qui dédient toute leur vie à ça, de manière très intelligente. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux au niveau local, pratiquement? Et en même temps, voilà bientôt 25 ans que les zapatistes se sont soulevés, donc ce qui veut dire il y a 36 ans que le mouvement a commencé. Aujourd'hui, le Mexique est un pays plus néolibéral, plus inégal et plus violent qu'il y a 25 ans. Ce n'est pas que les zapatistes ont échoué. On peut quand même se dire, bon, peut-être que ça ne suffit pas. Et il y a quand même quelques... Voilà, on peut pour le moins se poser des questions, ce que font quelques acteurs. Et du coup, je vois quelques différences. Ici, je viens de le rappeler, j'étais pendant 10 ans associé à une université à Londres. Et donc, en 2011, j'ai eu l'occasion de passer un peu de temps à Occupy London. On voit ici, 2011, toutes les couleurs, truc assez individualisé, beaucoup de discussions. Oui, ça ressemblait un petit peu à Nuit debout, 5 ans plus tôt. Très intéressant. 4 ans plus tard, 2015, une couleur, tous en rouge. Et la plupart dans Momentum, Parti travailliste, ils ont réussi à prendre le Parti travailliste en gros, avec quelques autres. Il y a quand même un petit changement. Attention, je ne dis pas que tous les militants font ça. Il y a à côté de ça des militants qui sont dans les espaces d'expérience, autonomes, pour lesquels le changement c'est se retirer de la sphère politique et faire le changement autrement. Il y a en même temps des militants, y compris alter-activistes, qui, je ne dirais pas retournent vers les partis politiques classiques, mais il y a, je crois, de nouvelles articulations entre l'alter-activisme et des formes plus organisées. Et ce que j'aimerais dire ici, c'est que c'est, il y a toujours une part de cooptation sans doute, mais dire que c'est uniquement la cooptation, je pense qu'on rate un peu l'essentiel. Il y a une, je ne sais pas si ça peut dire en français, une fertilisation réciproque. Le fait que cette culture alter-activiste pénètre profondément aussi les partis politiques, du coup, même à droite, hein, on n'a plus forcément des partis, mais c'est bien plus mélangé, c'est plus des réseaux. Et donc il y a une série d'explorations qui sont faites aussi dans les partis politiques. Il y a l'idée aussi d'une plus forte cohérence personnelle, par exemple Jeremy Corbyn, The New Hope, qui lui a... on voit bien comment à la fois c'est un vieux militant quand même, d'une couche très classique, et en même temps, c'est plus le même qu'avant. Il y a des hypothèses qui sont les mêmes, notamment parce que ce qui est apprécié aujourd'hui, c'est sa cohérence, le fait qu'il n'est pas, c'est pas un arriviste. Il ne change pas de ville quand il perd les élections ou de pays. Et donc, Corbyn, lui, il est vu comme voilà, un nouvel parti organisé dans lequel beaucoup d'activistes qui étaient, pas tous, mais beaucoup qui étaient à Occupy London, se retrouvent aussi dans le parti travailliste, ce qui est à la fois surprenant. Et je pense qu'il n'y a pas que de la cooptation là-dedans. Il y a aussi un renouveau d'autres formes de politique. On le voit avec certaines tentatives de l'ancien ministre de l'économie grec. Il y a pas mal de choses. Des explorations. Toute une série d'explorations. Et par exemple, ces partis pirates qui sont créés il y a quelques années, qui ont la plupart du temps pas eu un grand succès. Ils ont quelques succès en Allemagne parfois, et puis ça a un peu changé. Mais enfin, on voit partout le mouvement 5 étoiles, qui est aussi parti d'un idéal un peu différent, et qui est plein d'explorations politiques, qui ont parfois fini un peu moins bien, parfois un peu mieux. Donc c'est ça qui m'intéresse, de voir comment cette culture activiste se mélange à plein d'autres choses. Évidemment, quand on les mélange, ils sont critiqués de part et d'autre, et les militants un peu absolus, que ce soit autonomistes ou autres, n'aimeront jamais ça, bien sûr. Mais en même temps, c'est un terrain que je trouve passionnant. Et on voit par exemple aussi donc, un renouveau des partis de gauche, mais aussi on voit ce qu'on appelle des socialistes, dans le sens américain du terme, élus aux États-Unis. Je pense que le cas d'Alexandra Ocasio, à Brooklyn aussi, je crois. C'est tout à fait passionnant aujourd'hui. Comment la machine du parti est dépassée par non seulement des techniques, des discours, mais une manière d'être militant qui est inspirée, qui est en partie par des pratiques alter-activistes, mais une manière d'être aussi. Cette cohérence forte entre la vie et la politique, cette l'absence de séparation entre le quotidien et le politique, se reflète en partie là-dedans. Et là, je pense encore une fois qu'il y a un pays que j'ai un peu trop négligé, mais qui est vraiment passionnant parce qu'il est quelques années d'avance, c'est l'Argentine. En Argentine, il y a des travaux passionnants auxquels je n'avais pas prêté assez d'attention, qui montrent comment, à partir de donc en Argentine, en résumé, il y a eu une crise très grave financière, une catastrophe, tout s'est écroulé en 2001. Donc 19 et 20, septembre, 20 décembre 2001, l'Argentine s'effondre. Ensuite, il y a eu une année ou deux de tergiversation. J'ai eu l'occasion d'y aller en 2002. Et une grande créativité locale de plein de mouvements, piqueteros, assemblées de quartier. Le mot d'ordre dominant, c'était qu'ils s'en aillent tous. Tous les politiques sont corrompus. Qu'on se débarrasse de la classe politique. 6-7 mois plus tard, il y a les élections, et beaucoup de ceux qui disaient qu'ils s'en aillent tous ont appuyé à fond Kirchner, le président Kirchner. Ils sont un peu rongés en partie, qui a un gouvernement, un bilan compliqué comme tous les gouvernements, mais qui a sorti l'Argentine du FMI, qui a fait quelque chose d'intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des collègues, Pablo Vomaro notamment, Milena Vázquez, qui ont étudié ça en voyant comment, notamment les jeunes militants qui sont devenus des professionnels dans ce parti, sont en même temps restés militants et comment est-ce qu'ils faisaient pour jongler entre une identité professionnelle et une identité militante. Donc c'est des choses qui ne paraissent pas forcément évidentes ici, qui, bon, j'ai encore un peu de mal avec ça, mais je me dis au moins il y a un dialogue possible là-bas. Il y a des reconfigurations qui se font et je pense simplement ici que le message principal c'est voyons si, qu'est-ce qu'on voit quand on ne se limite pas à dire qu'il y a uniquement de la cooptation. Il y a aussi une reconfiguration du politique qui se fait aussi là-bas et je pense qu'il mérite d'être étudié. Le nouveau parti secret. Ce qui est très intéressant, c'est notamment au niveau local. J'ai deux doctorantes avec lesquelles je travaille beaucoup, Flavia Afar au Brésil et Alexandre Cassir au Liban, qui ont écrit dans ce livre notamment les mouvements sociaux quand le sujet devient acteur, qui montrent comment des alter-activistes tout d'un coup se sont retrouvés sur les listes électorales au niveau local au Liban et aussi pour l'instant au Brésil. C'est vraiment passionnant de voir, par exemple, au Brésil, comment il y a un regroupement. Tout le coup, ils se rendent compte qu'ils faisaient des choses très semblables dans plein de villes différentes, mais sans être fédérés. Donc maintenant, il y a une banca de activistes qui regroupe un peu tous ces mouvements dans les différentes villes. À São Paulo, par exemple. La manière de gérer cette contradiction un peu. On est militant dans l'alter-activiste et en même temps, on veut s'allier à des partis politiques, mais pas trop. Donc ce qu'ils ont trouvé comme petite solution, toujours insatisfaisante, c'est de dire, bon, on va aller à aucune réunion du parti. Nous, on a nos réunions dans le mouvement social. Ils nous laissent une place ou deux sur leur liste, mais on n'adhère pas au parti. On travaille avec eux quand ils font des choses intéressantes et sinon pas. Et par exemple, dans la campagne, il y a cette idée de rencontre non seulement du candidat, mais des personnes, des rencontres personne à personne, comme je le disais, où on va discuter directement avec les gens, où ce n'est pas le candidat, mais c'est tout le groupe qui porte le projet. Enfin, une série d'innovations politiques qui sont inspirées par des pratiques alter-activistes. Et qui en même temps, bien sûr, d'autres alter-activistes vont dire non, ils se sont en partie trahis, ce qui est aussi en partie vrai. Je pense qu'il y a beaucoup d'innovation, en tout cas de ce côté-là. On retrouve un peu, en partie, la même chose du côté avec les ONG et voire avec les syndicats. Et encore une fois, ici aussi, j'aimerais aller au-delà de l'idée d'institutionnalisation, qui est un phénomène très fort dans les mouvements sociaux. C'est le Tilly, Touraine, ils sont tous d'accord pour dire la voie directe, c'est qu'on commence comme un petit groupe informel et on termine comme un syndicat institutionnalisé. Il se fait que ce n'est plus comme ça. Aujourd'hui, on a des pratiques différentes, une réflexivité sur des militants qui arrivent à éviter, qui essayent d'éviter l'institutionnalisation et qui, en même temps, peuvent parfois s'allier à des ONG. On voit, par exemple, dans l'évolution des projets locaux, aussi un article sur les mouvements alimentaires locaux en Belgique, on voit comment ils commencent avec une consommation critique qui veut être absolument dehors des pouvoirs publics et qui, quelques années plus tard, s'allient avec les pouvoirs publics pour mettre en œuvre des alternatives pratiques parce que les pouvoirs publics sont aussi des leviers du changement, comme ils l'expliquent eux. On voit en même temps aussi une radicalisation des ONG. Pourquoi ? Parce qu'il y a des militants alter-activistes qui ont participé au Climate Summit, au Climate Camp, c'est les camps climat. Je crois qu'il y en a en France aussi, non ? Et donc, ils ont participé au camp climat. Ils se trouvent dans ces ONG. Le cas le plus fort, sans doute, c'est Friends of the Earth, Amis de la Terre en français. Amis de la Terre, c'était une ONG qui est quand même, je me rappelle, pour l'altermondialisme, c'était vraiment très, très light, on va dire. Il se fait que tout d'un coup, il y a Équateur décide, qui était leur parti en Équateur, qui était, elle, prise par des gens plus militants, qui a menacé de se retirer. Et il y a à partir de là, il y a tout un discours qui s'est engagé avec des militants. Et Friends of the Earth, notamment lors de la COP21 à Paris, était l'une des ONG les plus radicales, entre guillemets, dans le sens où ils faisaient des actions directes, ils étaient très impliqués partout. Et c'était pratiquement plus la même chose. Je crois qu'il y a vraiment un impact, un vrai dialogue profond, et qui n'est pas que de la cooptation, entre ces militants qui sont rentrés dans les ONG et qui les ont en partie transformés. Eux-mêmes aussi ont été en partie transformés par les ONG, bien sûr. Et là, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, notamment, c'est comment est-ce qu'ils allient cette action directe, ces actions directes, créatives, un peu conflictuelles parfois, et l'expertise des ONG. Le cas intéressant que j'utilise, c'est le ZLN à Bruxelles, j'en ai déjà parlé. On voit ici, donc, le ZLN, ils se déguisent tous en animaux, et puis ils font des actions directes contre tous les grands lobbies bruxellois, contre différentes grandes entreprises. Bien sûr, ils ont été réprimés, ils ont été, il y a eu quelques procès contre eux, deux procès. Ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ces acteurs, la journée, en fait, travaillent dans des ONG. Et il y a 10 ans, c'était incompatible. Les ONG ne voulaient pas qu'on fasse ça parce que ça menace leur image, c'est pas sérieux, ça risque de répression, etc. Pour eux, c'est bien plus compatible. Et ça me paraît d'ailleurs intéressant. Pourquoi ? Parce que leurs actions directes, quand on les voit, c'est des films fantastiques. D'ailleurs, si vous regardez EZLN Bruxelles, ils ont des petites séquences très amusantes. J'aurais dû en mettre ici pour vous réveiller au milieu de l'après-midi. Mais donc, vous tapez EZLN Bruxelles, je pense que vous trouvez ça de suite. Et donc, ces actions très, vraiment hilarantes, fantastiques, la musique très rythmée. Ce qui est intéressant, c'est que directement en dessous, il y a un lien vers le site d'une ONG qui explique en détail tous les aspects techniques de l'Union européenne, sur les lobbies par exemple. Il y a notamment un truc excellent aussi en ligne. Vous connaissez sans doute tous le Lonely Planet. Vous connaissez peut-être pas tous, pas encore, le Lobby Planet. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire une visite des villes comme essentiellement Bruxelles ou Berlin, je crois qu'il y en a aussi pour Paris, une visite des lobbies pour montrer l'importance des lobbies de manière un peu plus amusante, didactique. Mais donc, on voit l'alliance entre ces actions directes et l'expertise des ONG, comment tout ça peut aller ensemble et comment ça s'est transformé. Bon, je vais passer le cas des syndicats parce qu'il me reste quelques autres slides et le temps passe. Mais bon, c'est un peu la même chose pour les syndicats. Cela dit, ces nouvelles alliances, qui me semblent intéressantes, toujours parfaites, pleines de tensions, mais les tensions, c'est intéressant. Ça complique un peu la réalité, tant mieux pour l'analyse et pour le changement social. C'est une des voies aujourd'hui importantes. En même temps, ce que je vois dans différents endroits, en même temps, il y a aussi l'autre côté, je ne sais pas si il faut dire l'autre côté, mais il y a une autre tendance qui se renforce, qui est différente, qui est une tendance qui se renforce, qui s'approfondit, je dirais, plus encore, qui a perdu pratiquement tout espoir dans un changement avec l'État. Les autonomies, et autant il y avait les nouvelles articulations d'un côté, ici, je dirais, les nouvelles radicalités. Encore une fois, c'est plutôt des idéotypes. Hein. On peut parfois trouver des gens qui combinent tout ça, même si c'est en partie incompatible. Et donc, l'idée, c'est que l'émancipation se fait par l'autonomisation de l'État. L'État, c'est le pouvoir, c'est le capital. Et voilà, bon, il y a quelques illustrations récemment hein, dans les petites... ce qui s'est passé dans la répression des mouvements sociaux. Mais Notre-Dame-des-Landes, les apatistes, voilà, ce sont deux exemples d'approfondissement de l'émancipation. Avec de cette émancipation par l'autonomie, et j'aimerais insister aussi ici sur le fait qu'il y a en même temps résistance et alternative. Il y a en même temps opposition à l'État, mais surtout, la plupart du temps, est fait pour créer notre monde en pratique. Pratique préfigurative, dans ces espaces d'expérience. Et donc, on voit les deux aspects qui sont très liés. Et je pense qu'il faudrait peut-être insister un peu plus, non seulement sur les pratiques, mais aussi sur les cosmovisions, en disant que ce ne sont pas deux choses différentes. Que ce qui, moi, me passionne dans ces mouvements actuellement, c'est qu'on trouve ces deux choses profondément liées. Le fait qu'il y ait une vision du monde et les pratiques, alors qu'on peut penser que c'est tout le contraire. Que les pratiques, on a trop souvent entendu ça, oui, c'est bien tous ces débats théoriques, ce sont des débats pour les sociologues, il n'y a que les universitaires qui parlent du changement social, changer le monde, etc. Que ce sont des choses qui sont un peu en dehors, que les militants sont les pratiques, et voilà. Or, s'il y a bien un mouvement qui nous a aidé à penser le changement social aujourd'hui, ce sont les apatistes. Je rappelle quand même qu'au début du mouvement, la plupart étaient illettrés. Si le mouvement le plus global aujourd'hui, l'un des plus intéressants, c'est la Via Campesina. 20 millions de membres à travers le monde. Et ce sont les paysans. Et dans la Via Campesina, comme dans les apatistes, ce qui est central, c'est la vision du monde. Qui est toujours lié à la vision du changement social. Et donc, la pratique et la vision du monde sont très liées. Donc, c'est encore une fois pour ça que je pense que le concept de culture activiste qui lie les deux me semble intéressant et important. Et on voit un peu cet approfondissement un peu partout. Ce qui m'incite à reprendre le thème que j'aime beaucoup moins d'une autre, enfin, j'aime beaucoup la mondialisation, une autre mondialisation, un âge global en tout cas, une mondialisation qui n'est pas que néolibérale, on voit vraiment une circulation, une résonance un peu partout. Au niveau de l'écologie, des féminismes, des mouvements décoloniaux, avec un point commun, qui est qu'aujourd'hui, de plus en plus, c'est très clair en Amérique latine, je pense que ça devient de plus en plus clair pour moi en Europe, l'enjeu, c'est peut-être même au-delà du capitalisme, c'est la modernité. Alors que bon, c'est un peu plus compliqué en France, où la modernité, c'est l'émancipation. De plus en plus de mouvements questionnent ça. C'est pas nouveau, l'école de Francfort l'a déjà fait, les théories critiques. Mais clairement, avec l'écologie, on a d'autres manières de la questionner plus profondément, avec les mouvements paysans, les féministes, les mouvements décoloniaux. ce moment, la justice climatique, à chaque fois, c'est une influence très forte des acteurs, des cosmovisions et parfois d'intellectuels du Sud. La justice climatique, l'écologie politique, le bon vivir, qui est donc cette théorie développée par des... on se réfère surtout aux indigènes Quichua, et en Équateur et en Bolivie, une manière de vivre, parce qu'ici sera un peu la décroissance, quoi, à peu près, on a sa capacité volontaire. Dans les féminismes aussi, au pluriel, avec l'intersectionnalité, comment est-ce qu'on repense au féminisme en France? Les travaux de Françoise Vergès sont évidemment importants, c'est encore une fois pas nouveau, elle le fait depuis toujours. Mais comment est-ce qu'on repense au féminisme aussi avec Black Lives Matter? Comment est-ce qu'on revoit tous ces enjeux, toutes ces tensions? Et les mouvements décoloniaux, je pense que... il y a beaucoup de choses intéressantes dans le mouvement des indigènes de la République, dans bien d'autres mouvements, qui sont un peu plus compliqués en France parce qu'ils s'opposent à un idéal d'émancipation républicain très modernisateur, mais qu'on voit résonner en Espagne avec des migrants et un peu partout. Et donc, il y a aussi cette idée très forte dans beaucoup de ces mouvements que l'émancipation, il faut la penser en dehors du modèle occidental d'émancipation. Et je crois là vraiment, et je serais intéressé d'en discuter avec vous, un approfondissement de l'horizon d'émancipation, d'une réflexion très profonde qui circule beaucoup. Et il y a un panorama qui est contrasté, avec lequel je ne sais pas très bien quoi faire, où je vois d'un côté plus d'articulation, des gens qui, il ne faudrait pas dire ça tout à fait, mais rentrent un peu dans le système quand même, sans se trahir tout à fait, et ben, des enjeux un peu complexes là-dedans. Et il me semble intéressant, comme sociologue, notre position n'est pas de le juger. On voit qu'ils ont un impact, ils font des choses. Et puis de notre côté, aussi un renforcement de l'autre côté qui est une posture autonomiste, qui est autonome non seulement dans ses actions, mais aussi dans ses cosmovisions, ses horizons d'émancipation. Donc avec l'idée qui revient très souvent dans tous ces mouvements qui est commune, c'est vraiment l'idée de l'affirmation comme sujet et comme acteur politique, comme sujet pour sujet de sa vie, sujet de son monde, et aussi et l'action politique, réinventer le sujet politique. Il me reste quelques minutes pour la conclusion. Juste reprendre quatre points. Le premier, pour revenir un petit peu au début quand même, je pense qu'il est utile de penser tout cela en termes de culture activiste, qui sont encore une fois les idéotypes, qui ne se trouvent pas tels quels dans la réalité. Les grammaires militantes, on pourrait dire peut-être aussi, c'est à peu près la même chose. Il y a un approfondissement à certaines d'entre elles, de nouvelles combinaisons. Donc il faut aussi, déjà je le faisais pour l'altermondialisme, peut-être encore un peu plus maintenant. Je pense qu'il faut à la fois étudier les cultures militantes de manière pure et ensuite étudier leurs combinaisons. Comment est-ce qu'il y a plein de tensions là-dedans. Je pense aussi qu'on est peut-être dans un moment où on va au-delà de la réelle politique, de l'idée l'idée qu'en fait, finalement, le fait d'être plus modéré n'est pas toujours plus efficace, si on le voit aux États-Unis, si on le voit dans différents pays, peut-être en France aussi. Deuxièmement, je pense qu'il faut, sans être pessimiste, il ne faut pas oublier le bilan difficile, contrasté, des mouvements de 2011, le tournant 2015-2016 aussi. Il faut prendre en compte davantage les acteurs capitalistes, conservateurs et leurs interactions avec les mouvements progressistes. Clairement, on ne peut plus penser les mouvements sociaux exactement de la même manière après ce tournant conservateur. La polarisation, la réflexivité. Et en même temps, je vais souligner aussi le fait que les mouvements progressistes ne s'arrêtent pas. Il n'y a pas que des mouvements conservateurs, il y a toujours une grande créativité aussi aujourd'hui. Et pour reprendre ce que disait Colin Crandall, le déclin de la démocratie, la post-démocratie. Bien sûr, comme je n'ai pas eu 20 ans en même temps que lui, je pense qu'il n'a pas tout à fait raison. Et je pense qu'il faut en même temps se méfier de l'idéalisation des mouvements sociaux d'aujourd'hui, ou de 2011, bien sûr. On est un peu vacciné contre ça maintenant. En même temps, je méfie aussi beaucoup tous ceux qui nous expliquent que 68 était le grand moment, que c'était un moment fantastique. Ceux pour qui les années 70 étaient les années de l'âge de la démocratie, il faut qu'il m'explique pour qui. Les années 70, c'était la guerre du Vietnam, au début. C'était la dictature en Espagne, dictature dans la plupart des pays latino-américains. Si la démocratie... je pense qu'il n'y a pas eu d'âge de la démocratie. La période d'aujourd'hui n'est pas forcément pire que les autres. Simplement, il y a des défis intéressants. Et ce qui m'intéresse aussi, à travers tout ça, c'est de proposer aussi, finalement, une autre perspective sur le rapport entre chercheurs et acteurs. Et surtout, ne plus considérer que les chercheurs, on est les observateurs de tout cela, on fait partie du champ de bataille, et clairement la sociologie est un champ de bataille aussi. Et les sciences sociales. On a vu comment la sociologie est diminuée un peu partout, comment les sociologues sont assez peu présents dans le débat public aujourd'hui, comment d'autres sciences sont bien plus présentes. Je pense qu'il y aura assez peu de gouvernements en France, assez peu de sociologues au gouvernement en France aujourd'hui. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Bref, il y a vraiment ici un enjeu qui se fait où on est à la fois chercheur et acteur. Pas seulement, et là j'insiste, c'est tout à fait légitime, heureusement en France aussi maintenant, d'avoir des thèses, des recherches militantes. Je pense que c'est aussi tout à fait légitime d'avoir des thèses et des recherches qui ne sont clairement pas militants, plus, qui prennent une posture plus objective d'autre chose. Je pense que voilà, il y a un pluralisme certainement. Simplement, une sociologie même qui serait plus objective fait elle aussi partie du champ de bataille parce qu'il y a une circulation de tout ça et parce que nous ne sommes bien sûr pas les seuls à penser le changement social et parce que les cosmovisions, la manière de voir le monde est à la fois influencée par les sociologues et nous-mêmes, nous sommes aussi influencés par les acteurs, donc il y a un décloisonnement de tout cela. Ce qui me pousse, bien sûr, sans surprise, à soutenir, défendre, faire un peu de promo pour une sociologie globale des mouvements sociaux. Je pense que, comme je l'ai dit plusieurs fois, ce qui m'intéresse beaucoup moins, c'est que je pense qu'on voit les choses différemment. Quand on replace quelques faits qui peuvent sembler isolés, sur la répression des mouvements sociaux, sur les combinaisons un peu bizarres entre alter-activisme et partis politiques, quand on voit que ça se passe dans différents pays, c'est qu'il y a des éléments structurels intéressants à voir, et donc je pense qu'une perspective globale est importante. Globale aussi parce qu'on va intégrer dans les acteurs progressistes, conservateurs et capitalistes. Et donc c'est ce qu'on fait à l'Association internationale de sociologie. J'espère que vous allez tous nous rejoindre. Et c'est ce qu'on fait aussi dans une plateforme qu'on a lancée il y a 3 ou 4 ans avec Breno Mrigel, mon ami brésilien. Open Movements, malheureusement essentiellement en anglais, on a beaucoup de textes en espagnol aussi. Open Movements, c'est une plateforme pour une sociologie publique et globale dans laquelle tous vos textes sont les bienvenus. On publie des textes entre 2500 et 3000 mots, malheureusement en anglais d'abord, et avec quelques règles. Il faut que ce soit compréhensible par un public international, il faut pas de débat théorique. Non pas que les débats théoriques ne sont pas intéressants, mais on applique la théorie, hein, des cas pratiques. Il se fait, et je pense que c'est malheureusement pas un hasard, qu'on a, je pense qu'on va avoir moins de 2% d'articles français. On a publié 160 articles en 3 ou 4 ans, je me souviens d'un article français, et donc deux articles français en fait, dont un écrit par un anglais. bref, on a besoin de vous, et donc il ne faut pas être forcément titulaire d'une chaire en sociologie pour écrire là-dedans. Je pense qu'on peut tout à fait écrire à partir d'un mémoire de master, d'une thèse ou d'autre chose. Allez voir Open Movements.